With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello légende, bienvenue pour notre 70e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on est avec Caroline Martin et si vous ne la connaissez pas, elle est tout simplement une rockstar dans sa discipline, la biomécanique. Vous verrez pendant l'interview que Caroline est top 3 mondial et quelque chose me dit que si elle n'était pas si humble, on aurait appris que depuis plusieurs années, c'est elle qui est sur le toit du monde de la bioméca dans le tennis. Mais qu'est-ce donc précisément que ce terme barbare? C'est l'optimisation du geste pour un maximum de rendement et exploiter pleinement son potentiel. Caroline nous raconte en détail les passages de quelques joueurs connus et c'est toujours très intéressant d'avoir l'envers du décor. Elle nous partage son parcours et sa détermination qui l'ont poussé à ouvrir cette voie en France et à attirer certains des meilleurs joueurs du monde. On va même plus loin ensemble puisqu'on a tourné notre 8e masterclass dédiée au service avec Caroline. Elle nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet. Et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels, vous avez à disposition du très lourd pour passer un sérieux cap et gagner vos jeux de service beaucoup plus facilement. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 8e et les 7 autres sont listés juste en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Place maintenant au 70e épisode avec notre experte en biomécanique Caroline Martin. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, alors Caro, ça fait plaisir d'avoir une femme sur ce podcast, vraiment. Merci de prendre le temps avec nous.
Et ça fait, d'être là.
Ça fait d'autant plus plaisir que tu es une experte dans ton domaine, une figure incontournable de la biomécanique adaptée au tennis. Tu as été négate pendant 12 ans, moins 15 à ton meilleur et à défaut d'avoir percé sur le circuit. Tu t'es blindée de diplômes. Tu es ex-professeur agrégé d'EPS, puis... Oh. BE1 d'entraîneur de tennis, tu enchaînes avec un diplôme universitaire de préparateur physique, tu es maintenant de l'autre côté de la barrière, formatrice au diplôme d'entraîneur et au diplôme fédéral d'entraîneur de haut niveau à la Fédé. Mais c'est pas fini, tu es aussi maître de conférences, enseignante responsable de l'activité tennis à l'UFR Staps de Rennes et consultante auprès de joueurs et de joueuses de tout niveau. Madame Martin, RSP. Bravo.
Tu dis non. Tu t'es rencardé.
Ouais, c'est pour ça que j'avais 5 minutes de retard. Le CV était un peu long. Tu dis dans Tennis Actu avoir commencé la bioméca sur des copains, avec Julien Bouter notamment, qui t'a permis de faire tes armes au Moselle Open. Mmh. Ouais. Tu pourras nous raconter après en détail. Il y a du lourd qui est passé entre tes mains ou entre tes diodes électroniques. Ça, pareil, tu pourras nous dire. Daniil Medvedev, par exemple, Félix Auger-Aliassim. Ivan Ljubicic, qui a dû en glisser un mot à Roger, qui sait. Pierre Hugerbert, Hugo Humbert, Arthur Hinderknecht, Stéphane Houdet et bien d'autres. Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev, témoigne sur ton site de l'efficacité de ton approche, qui a permis à son poulain de décupler son efficacité au service. Il écrit aussi que vous continuez d'échanger régulièrement au profit de Daniil, qu'on n'a pas fini d'entendre parler, visiblement, en partie grâce à toi. Sur ton site, il est indiqué que la bioméca dans le tennis intervient sur 3 piliers principaux. L'amélioration de la performance au service, notamment, pour optimiser la technique, augmenter la vitesse de balle et améliorer les effets. En 2, la prévention des blessures, en identifiant les facteurs responsables qui doivent varier d'une personne à l'autre, j'imagine, tu pourras nous le préciser. Et en 3, l'influence de la fatigue, pour déterminer comment la technique du joueur peut se dégrader au cours de matchs prolongés et comment mieux gérer son effort. Tu as sorti un livre, Tennis, optimisation de la performance, que je mets dans la description de cet épisode en lien. Tu es basée sur Rennes, tu es maman de deux enfants, donc tu viens de me le dire. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation où tu te dis « le mec n'a pas fait le boulot intégralement » Caro.
C'est au top, parfait.
Bon, bah, ça
on
va.
On a rajouté.
Ok, bon, je sais qu'on va découvrir plein d'autres trucs, mais écoute, c'est déjà un bon début. Alors, j'ai commencé pareil avec Fabrice Barrault, qui est statisticien, mais qui bosse d'ailleurs avec Gilles Servara.
Ouais.
Il est passé plusieurs fois sur ce podcast. Et je lui dis, Fab, comment fais-tu pour rendre la stat sexy ? Pour moi, de l'extérieur, Caro, tu me vois venir. La biomécanique, j'ai l'impression que c'est un peu déconstruire des mouvements pour tout réapprendre, comme si un robot apprenait à marcher pour la première fois, avec des électrodes partout sur le corps, avec des équations à rallonge, avec de l'électronique. Bref, Caro, permets-moi de te poser la question. Comment rends-tu la biomécanique sexy ?
C'est vrai que la biomécanique, à premier abord, ça peut faire un peu peur. C'est quand je suis avec mes étudiants au STAPS, à la fac de sport de Rennes, et que je leur parle de bioméca, souvent, il y a un petit mouvement de recul. Voilà, c'est pas le truc. On voit des équations, on voit des trucs mathématiques compliqués. Évidemment qu'il y a ce travail-là à faire quand nous, on fait des analyses et ce travail de recherche avec des joueurs. Mais ce truc-là, il est caché, en fait. Donc déjà, je pense que ça rend le truc un peu plus sexy. C'est que le joueur, l'entraîneur, ils ne sont jamais confrontés aux équations. Ça, c'est pour nous, en coulisses, j'ai envie de dire. C'est les outils qui vont nous permettre d'accéder à un certain nombre d'indicateurs. Et le truc un peu sexy, on va dire, sur la bioméca, s'il y en a un, c'est quand même l'apport des nouvelles technologies. Et notamment, j'ai la chance d'appartenir à un laboratoire, donc le laboratoire M2S pour Mouvement Sport Santé, qui est un laboratoire de recherche publique rattaché à l'université. Et on est hyper bien doté en technologie. On a un gymnase qui est dédié à l'analyse du mouvement et on peut faire la capture de mouvement en 3D. Donc, on a un terrain de tennis avec plein de caméras. Donc déjà, quand les gens arrivent au labo, généralement... ouais, ils se disent waouh, ah ouais, c'est ça, c'est l'aspect sympa en fait du truc, c'est la nouveauté, la techno. Les gens en général adhèrent. Je parle pas trop de biomécanique, souvent je suis plus sur l'optimisation du geste, déjà ça parle un peu plus aux gens.
Ouais.
Et ouais, le truc, je pense, un peu sexy, c'est ça. C'est le fait de mettre les marqueurs sur les joueurs, d'avoir les caméras, de faire de la 3D. Ça, c'est l'aspect aussi sympa, assez vite, en fait. Donc, on rentrera dans le détail après, mais quand les joueurs viennent, on enregistre, on filme, en quelque sorte, leur mouvement de service en 3D. Et puis, ils peuvent très vite venir se voir sur l'ordinateur et se voir sous plein d'angles différents. Donc, il y a l'aspect, ben, on joue avec les prises de vue, ce qu'on ne peut pas faire avec un smartphone actuellement en 2D. Donc ça, c'est le côté aussi un peu sympa. Le truc, c'est qu'on est sur des fréquences de capture. On enregistre autour de 300 Hz pour le plus haut niveau. Donc, on a 300 images par seconde.
Ouais.
Donc, on peut vraiment décomposer le geste. Et puis, quand l'entraîneur nous dit, bah, tiens, c'est vraiment ce moment-là que je vais aller regarder pile poil l'impact. Voilà, l'outil nous permet de le faire. Et puis après, bah, on est sur une phase de traitement pour nous où là, il y a toutes les équations, les maths, mais ça, personne ne le voit.
Ouais.
Et on sort un compte-rendu qu'on essaye de rendre le plus sexy possible aussi, avec un peu de visuel, un peu d'infographie, pour que ça soit le plus digeste finalement pour l'entraîneur et le joueur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'habiller un peu le truc pour le rendre sympa.
Bon. On a bien compris que tu es passionné parce que tu nous trouves du sexy partout. Là où le profane dirait « Ah ouais, donc en fait, c'est une grande salle de jeu avec plein d'électronique et puis du coup, bah, on peut se voir sous d'autres aspects. Ouais. » Mais juste les équations qui sont en off que seul toi traites, comment tu les analyses et elles te servent à quoi en fait pour améliorer un geste au final ?
Ouais. Alors déjà, moi, je ne suis pas toute seule à les traiter quand même. C'est vrai que c'est souvent moi qui suis citée ou en tout cas dont on parle, mais il y a une équipe qui travaille avec moi. Donc
ouais.
Déjà, je suis pas toute seule. Et j'ai deux collègues très proches, Pierre Touzard et Loïc Fourel, là, qui bossent à temps plein avec moi. Donc voilà, il ne faut pas les oublier, je ne suis pas toute seule. Et puis ensuite, bah, ces équations, en fait, elles nous permettent à partir du squelette du joueur. Donc, on a la position des marqueurs qu'on vient placer sur le corps. Ça, les caméras l'enregistrent en 3D dans l'espace. Donc, on a des positions. Et en fait, après, c'est des maths. À partir de ces positions, on peut accéder à un certain nombre d'indicateurs. On va regarder quelle est la hauteur d'impact, par exemple. On va regarder quels sont les angles de flexion au genou, quelle est la vitesse de poussée des jambes, la vitesse de tête de raquette à l'impact. Enfin, voilà, on va regarder plein de choses qui ont du sens ensuite pour la performance au tennis. Et c'est à partir de ces indicateurs-là qu'on peut guider l'entraîneur et le joueur vers de l'optimisation du geste, en fait.
Okay. Pourquoi c'est toi qui es dans la lumière du coup et pas tes deux collègues qui sont à temps plein?
Ouais. Alors, pourquoi c'est moi qui suis dans la lumière? Parce que au départ, j'étais toute seule.
D'accord.
Le projet tennis à Rennes, il est arrivé avec moi pour faire court. Donc moi j'étais étudiante en STAPS à Metz et puis j'ai passé un concours, le concours de l'École normale supérieure de Rennes. Donc je suis arrivée à Rennes pour poursuivre mes études en fac de sport et à l'ENS. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait possibilité de faire la recherche en sciences du sport, parce qu'au départ quand moi je pars en fac de sport, c'est pour me permettre de jouer un peu encore sur le circuit.
D'accord.
Et en même temps, j'ai une maman qui est prof de PS et je me dis, bah tiens, ça peut être aussi en termes d'insertion professionnelle, c'est un truc qui me plaisait. Donc je me dis, bah, je serai prof de PS. Et puis là, j'arrive à Rennes et je vois les nouvelles techno et je me dis, ouais, mais il y a moyen de faire un truc super en associant mon côté un peu à me poser tout le temps des questions, à essayer de comprendre les choses, ma passion pour le tennis. Je passe mes diplômes d'entraîneur à ce moment-là, donc je suis du côté entraîneur. Je me pose des questions aussi sur. Comment aider les joueurs avec qui je travaille pour améliorer leurs gestes de service. Moi, j'étais une bonne joueuse, mais j'avais un service pas très performant par rapport à mon niveau de jeu. Je pense que si j'avais eu un service plus performant, j'aurais peut-être été un peu plus loin. Donc, en fait, il y a tout ça qui s'emboîte et je découvre la recherche, je fais un master, ça me plaît, j'ai la possibilité de poursuivre en thèse. Et j'ai eu des encadrants de thèse, Benoît Bidot, Richard Coppa et Paul Delamarche, qui m'ont laissé carte blanche. Et ça a été top. Enfin, ils m'ont cadré sur l'aspect bioméca, mais ils m'ont vraiment fait confiance sur l'aspect tennis. Et enfin, je suis partie de rien. Et c'est pour ça, en fait, que voilà, c'est plutôt. Enfin, je porte le projet tennis au labo, c'est moi qui le porte. Après, maintenant, je ne suis plus toute seule. Il y a des gens qui. Voilà, il a fallu renforcer un peu le truc. Et donc, il y a des gens qui sont arrivés, mais. Voilà, c'est issu de mes travaux et du travail que j'ai démarré il y a 10 ans, quoi. Donc
Yes.
c'est pour ça que c'est moi qui suis souvent citée. Voilà.
Et pourquoi être installé à Rennes ou un secteur comme ça si spécifique, évidemment, on l'imaginerait à Paris, avec le CNE pas
Ouais.
loin, Roland, tout ça, qu'on sait
Ouais.
que tu es en
Ben, en
Bretagne?
fait, pardon, à Rennes, il y avait ce laboratoire de recherche avec des gens déjà dans le domaine de la bioméca. Et le fait qu'il y ait aussi l'ENS, qui est quand même au niveau, on va dire, institutionnel et académique, une entité qui porte un peu avec, dans le domaine des sciences du sport et qui était basée à Rennes, ben, il se trouve que voilà, le labo est rattaché à Rennes. Ça s'est fait un peu comme ça.
Ouais.
Et voilà, moi, je me suis bien plu en Bretagne, même si je ne suis pas originaire de Bretagne. Et je suis restée là.
Top.
Ouais.
Alors, on va mettre les pieds dans le plat rapido. Concrètement, est-ce que un joueur peut voir des résultats quasi instantanés en passant entre tes diodes? Et tu as beaucoup parlé de service. Est-ce que du coup, la bioméca est uniquement axée sur le service ou aussi sur les autres coups du tennis?
Alors, potentiellement, on peut faire tous les coups du tennis. Nous, c'est vrai que maintenant, on est bien identifié sur l'aspect service parce que, en fait, moi, mes travaux de thèse, ils ont porté là-dessus. Et puis après moi, il y a Pierre qui a enclenché aussi, lui, avec un doctorat en partenariat avec la Fédé, et toujours sur le service, mais chez les plus jeunes. Voilà, donc c'est vrai qu'on a une base de données maintenant de plus de 150 joueurs qui sont passés en 10 ans sur le service. Mais ça arrive que des joueurs viennent nous voir et disent, bah voilà, je viens pour le service, mais est-ce qu'on pourrait pas faire aussi un petit peu de coup droit? Donc voilà, on le fait aussi. Potentiellement, on peut faire n'importe quel type de frappe. Maintenant, la base de données qu'on a, on en a moins quand même au coup droit, mais ou sur d'autres coups, mais on peut le faire. On peut le faire.
D'accord.
Voilà, c'est tout à fait possible. Et l'autre début de ta question, je n'ai
Et
pas retenu du tout.
revers volé.
Revers volé, ouais, c'est faisable aussi. Coup droit, par exemple, on l'avait fait sur des déplacements, on avait travaillé, mais là, c'était en partenariat avec Wilson, tu vois, pour développer des chaussures.
D'accord.
Voilà, on avait fait sur des déplacements, plus coup droit, appui ouvert, appui en ligne. Revers volé, on pourra le faire aussi. On n'a pas été spécialement sollicité sur ces coups-là. La plupart du temps, quand on vient nous voir, allez, 9 fois sur 10, c'est service. Et puis souvent les joueurs en profitent pour dire bah, tant qu'à faire, je suis là, est-ce qu'on peut faire un peu de coup droit aussi? Voilà, donc.
Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube dès maintenant, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est un moteur incroyable qui nous permet d'avancer. Et pour rappel aussi, t'as accès à la 8e masterclass dédiée au service avec Caroline. Elle nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait. Grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels, t'as à disposition du très lourd pour passer un sérieux cap et gagner tes jeux de service beaucoup plus facilement. La première partie de mes questions, c'est un de mes défauts, c'est de poser trois questions en une, quatre parfois quand je suis en grande forme. C'était les progrès, tu vois, la vitesse
Ah
d'exécution. Est-ce que c'est notable tout de suite? Est-ce que ça a besoin d'un temps d'implémentation?
Alors, voilà comment on travaille quand des joueurs nous contactent plutôt pour de la presta privée. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des vidéos des joueurs avant. Donc souvent les joueurs, ils m'envoient des vidéos via WhatsApp. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Là, on a bossé avec Ons Jabeur. Et voilà, elle était en tournoi. Elle a pris contact. Je lui ai dit, bah, il me faut des vidéos de ton service. Je veux pas te découvrir le jour même, quoi. Je veux pouvoir préparer le truc.
Yes.
Il y a une phase d'échange aussi avec le joueur, le coach, éventuellement le prépa physique. Enfin, ça dépend qui est dans l'équipe pour savoir pourquoi ils viennent. C'est quoi le but? Quels sont leurs objectifs? Est-ce qu'il y a un problème de blessure? Est-ce qu'ils veulent chercher de la performance, mais c'est quoi? Plus de vitesse de balle, plus de pourcentage de réussite? Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de préparer le test. Après, ben, ils viennent au labo. Donc là, ça dure à peu près 2 heures. Donc on les équipe avec nos marqueurs. Et là, ensuite, ils partent servir, quoi.
Yes.
Et souvent, donc il y a un protocole qu'on fait passer à tous les joueurs qui permet de remplir notre base de données. Comme ça, on peut comparer le joueur avec notre base de référence parce qu'on a des données sur des jeunes, sur des garçons, des filles, quelques joueurs fauteuil aussi, du haut niveau. Donc ensuite, on utilise la base de données comme valeur de référence.
Et c'est-à-dire, vous comparez quoi, un geste parfait, par exemple?
Non, non, on va comparer les paramètres dont je te parlais, la hauteur d'impact, par exemple, les angles de flexion des genoux, la vitesse de tête de raquette, les
D'accord.
contraintes aussi encaissées au niveau des articulations par rapport au risque de blessure. Voilà, c'est ça qu'on compare.
D'accord.
Et donc le joueur, il fait ce protocole général, et puis ensuite on fait du à la carte. Avec du haut niveau, tu es obligé de faire du sur-mesure ou du cousu main, t'as pas trop de choix. Et ça, c'est normal, et c'est cet aspect-là qui est assez passionnant, moi je trouve, c'est que souvent les entraîneurs, en tout cas pour les tout meilleurs, ils savent vraiment pourquoi ils viennent. Et il y a des questions très précises. Ils veulent parfois tester plusieurs techniques en fait. Donc il y a la technique habituelle du joueur, et puis ensuite ils disent, ah bah, tiens, est-ce qu'on pourrait modifier tel paramètre? Ou tel, je sais pas moi, tiens, il sert avec un relais d'appui, je veux le faire servir à la Roger avec des appuis écartés au départ.
Ouais.
Donc on réenregistre une série d'essais. Et ça va nous permettre de comparer en fait les résultats entre les deux techniques. Et puis, bah, quand c'est Gilles Servara, c'est pas deux techniques, c'est cinq ou six, tu vois.
Ah ouais, il va chercher encore beaucoup plus loin.
Ah bah ouais, en fait, avec les tout meilleurs, tu passes beaucoup de temps parce qu'ils vont sur des détails. Et tiens, si on modifie, je sais pas, la préparation ou l'armée ou la montée du bras, ok, je modifie ça, ok, ça donne tel résultat. Bon, alors maintenant, je vais associer ça avec une poussée un peu plus forte de la jambe arrière, ok, ça me donne ça. Et à la fin, tu te retrouves avec la cinquième série. Alors, c'est un combo entre un lancer de balle un peu plus avancé, une poussée un peu plus forte de la jambe, enfin bref. Voilà, mais du coup, c'est là que c'est hyper intéressant.
Un
Mais
alchimiste, ce Gilles.
ouais, c'est un peu de ci, un peu de ça.
Ouais.
Mais ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et alors ensuite, les joueurs peuvent venir se voir sur l'ordinateur
D'accord.
pour visualiser des choses. Nous, on est capable assez vite de sortir quelques paramètres, tu vois, la hauteur d'impact. On met aussi les joueurs sur des plateformes de force qui nous permettent de mesurer les forces de poussée des jambes. Jambes avant, jambes arrière, comparer un petit peu. Donc ça, c'est des résultats qu'on a en instantané ou très rapidement en fin de séance. On peut déjà donner des feedbacks là-dessus. Par contre, pour aller plus loin dans tout ce qui est calcul d'angle, les contraintes au niveau des articulations, la vitesse de tête de raquette, là, nous, ça nous demande un petit peu de boulot. Et donc, il y a quelques jours, enfin, on a besoin de quelques jours pour sortir les résultats, faire un compte-rendu propre. Et là, l'enjeu pour nous dans les mois à venir, c'est d'automatiser de plus en plus les comptes rendus pour que ça aille de plus en plus vite et que les joueurs n'attendent pas. Alors, du temps réel, ça va être compliqué, mais réduire au maximum ce délai parce que, en fait, on est dans un, les joueurs, ils ont besoin de choses immédiates, quoi. Ils n'ont pas le temps d'attendre. La semaine d'après, il y a un tournoi, ils repartent. Donc, faut, l'enjeu pour nous, c'est d'aller vite aussi
Et vous
dans tout
bossez
ça.
sur des algorithmes pour automatiser tout ça, comment ça marche?
Ouais. Il y a une grosse partie de travail informatique. En fait, déjà, le logiciel où on va reconstruire le squelette du joueur, ben, il y a une partie qui se fait manuellement, mais il y a une partie qui est automatisée. Et puis ensuite, une fois que le squelette est reconstruit, ben, faut lancer tout ce qui est algorithme de calcul. Et donc là, on a un postdoc ingénieur, Loïc, qui nous aide bien là-dessus.
Et dans le cas de figure de 11, j'imagine que tu prends pas le temps de regarder tous ces matchs en streaming. Le coach te fait un retour pour te dire on a progressé là-dessus, là-dessus, là-dessus.
Alors,
Au
on fait un,
contraire,
en
ça on a
fait,
du mal. C'est quoi la
en,
suite?
ouais, donc il y a toujours une phase de débriefing ensuite, une fois que le compte rendu a été envoyé, tu vois, pour que bah, déjà, parce que le compte rendu, il faut, ça dépend des joueurs, mais allez, pour le haut niveau, on est sur des comptes rendus entre 10 et 15 pages, donc il y a quand même beaucoup d'infos. Il faut que bah, la personne en face voilà, lise le truc, le digère, et on fait toujours un débrief visio. Pour
Yes.
là, tu vois, avec le coach de 11, on a pris 1 heure visio. Moi, j'étais là, il y avait Pierre et Loïc, et dire bah, voilà, est-ce que tu as des questions? Il y a des trucs qui sont pas clairs. Comment toi, tu vois le truc? Quels sont finalement les paramètres qui te semblent le plus pertinents? Comment tu vois la suite? Ok, on synthétise. Allez, vous avez peut-être 3 choses à bosser là dans les semaines qui viennent. C'est ça, ça, ça et ça. Tu vois, donc d'un compte rendu d'une dizaine de pages, on est là pour aider encore à synthétiser et en ressortir vraiment l'essence pour qu'ensuite ce soit le plus facile et le plus applicable pour l'entraîneur. Donc derrière, ben après, ça dépend des joueurs et des entraîneurs. Derrière, il y a des coachs, on n'a pas de nouvelles. Tu vois, ça peut arriver aussi que, bah, en même temps, nous, on n'est pas là pour entraîner le joueur non plus. Tu vois, la frontière, elle est. Il faut faire attention de pas. On n'est pas là pour se substituer à l'entraîneur. Donc, des fois, on n'a pas de nouvelles et c'est un merci, on a bien reçu le compte rendu, puis tu ne sais pas trop ce qu'ils en font. Et puis, il y en a d'autres, ben, voilà, on est en contact régulièrement, ils me renvoient des vidéos, parce qu'ils sont à l'étranger. Certains reviennent se faire tester après une période d'entraînement pour comparer avant-après. Voir si ça s'améliore. Après, moi, je continue. Alors, je ne vais pas regarder évidemment tous les matchs, ce n'est pas possible, mais j'aime bien aller voir les stats, tu vois, en termes de pourcentage de première, de vitesse de balle, au bout de quelques mois, voir si ça
Yes.
progresse ou pas. Demander à l'entraîneur, lui, ce qu'il en pense. Et puis, avec certains, bah, que ce soit Frédéric Fontan ou Gilles Savara, je suis toujours en contact. Et voilà, quand ils ont besoin, ils me demandent des trucs. Et puis, voilà, on continue de garder le suivi un peu comme ça, quoi. Mais ça dépend des coachs.
Et tu traites quand même avec des mecs qu'ont déjà qui sont des experts dans leur domaine et qui ont en plus des Ferrari entre les mains, que ce soit Ons ou Daniil, Félix, ces entraîneurs, quand tu leur transmets les deux, trois axes de travail, quand tu as synthétisé les 15 pages, tu vois dans leurs yeux genre une découverte, enfin, des étoiles où ils se disent, Tain, mais c'est fou, on n'avait pas vu cet aspect à travailler de nos joueurs qu'on connaît quasiment par cœur, qui sont déjà quasiment top. Enfin, comment ils perçoivent ces
Ça
directives?
dépend. Ça dépend. Si je prends le cas de Gilles, par exemple, il n'était pas tant là pour découvrir des nouveaux trucs parce que je pense que je vais pas lui faire découvrir des choses sur Dany. Il le connaît par cœur. Il le connaît mieux que moi. Encore mieux à présent. Alors, quand il est venu, Dany était 66e mondial, un truc comme ça. Donc, c'était 2018.
17, je crois. Ouais.
Ouais, par
Ah ouais,
là.
non, 10, 18,
Ouais.
t'as raison, ouais.
Ouais. Donc maintenant, c'est vrai qu'il s'est encore passé du temps, donc je pense qu'ils se connaissent encore mieux tous les deux, mais c'était pas je vais découvrir un truc. Non, c'était il avait des hypothèses en tête et il voulait les confirmer ou les infirmer en fait. Donc nous, on est là aussi parce que le joueur, parfois, il a un ressenti. Le coach en a un. Soit ils sont d'accord, soit ils sont pas toujours d'accord, ça dépend, mais c'est venir mettre de l'objectif dans du subjectif.
D'accord.
C'est un peu ça, c'est OK, j'ai cette impression-là, mais est-ce que vraiment elle se vérifie? Est-ce que les chiffres C'est un peu comme le principe de la SAT, hein. C'est venir donner des données tangibles. Des fois, des joueurs qui nous disent, voilà, oh là, mon lancer de balle, c'est une cata, j'ai l'impression que ça part à droite, à gauche. Et puis, ben, nous, quand on regarde, ben, non, la position d'impact d'un essai à l'autre, elle est stable. Donc, tu vois, ça permet de confirmer ou d'infirmer des hypothèses. Et dans le cas de Gilles, je prends cet exemple-là, c'était vraiment, ouais, j'ai ça en tête. Dis-moi si oui ou non je me trompe. En gros, hein, je caricature, mais voilà.
Et vous êtes privé, Caro, t'as la structure ou comment ça marche?
Non, c'est le laboratoire, c'est une structure publique. Donc,
D'accord.
les prestations sont quand les joueurs viennent, c'est l'université qui facture les prestations.
Et on peut savoir combien ça coûte quand c'est privé comme ça ou c'est tenu
Alors,
en club?
ça dépend. En fait, c'est difficile. La presta, elle varie entre 1 000 et 2 000 euros actuellement, tu vois. Ça dépend de ce qu'on fait. Si c'est que service, si c'est service plus coup droit, si on met les plateformes de force, si on. Voilà, ça, après, on fait un peu un devis à la carte en fonction des demandes.
D'accord.
Voilà. Et puis après, bah, il y a des fois, on fait passer des joueurs. Alors, c'est nous qui allons chercher des joueurs. C'est un peu différent. C'est quand nous, on a des hypothèses scientifiques et qu'on veut tester, on a besoin d'une cohorte de sujets, en fait, hein. Et donc là, on va chercher du monde. Et pour le coup, bah, ça ne coûte rien aux joueurs puisque c'est nous qui allons les chercher. On a besoin de nous.
BNF.
Ouais.
Et si un joueur de club veut faire analyser son service, son coup droit ou autre, comment ça
Ouais.
marche?
Alors, on a déjà eu des demandes. Joueurs de club, il faut quand même que ce soit d'un bon niveau, c'est-à-dire à partir au moins seconde série.
D'accord.
En dessous, honnêtement, pour faire de l'optimisation du geste, la vidéo avec un smartphone, de la 2D, ça suffit. Tu peux déjà voir énormément de choses. C'est pas
D'accord.
la peine que le joueur il paye une presta qui est quand même voilà, qui a un coût, qui se déplace à Rennes, alors qu'on peut déjà voir des choses soit déjà à l'œil nu. L'œil nu d'entraîneur expert, il est déjà capable de voir des choses, de faire, et on peut utiliser de la vidéo, faire du slow motion, voilà. Donc, c'est plutôt réservé quand même à un certain niveau. Et pareil, chez les petits, j'ai eu des demandes parfois pour des gamins de 10, 11, 12 ans. Le plus jeune qu'on ait fait passer, c'est du 12 ou 13 ans Pôle France de Poitiers. Mais en dessous, y a déjà plein d'autres choses à faire avant, quoi. Pour
Yes.
moi, ça se justifie pas.
Ok.
Voilà.
Pour revenir à ton histoire, comment tu as découvert le tennis et qu'est-ce que tu as ressenti dès le départ?
Alors, comment j'ai découvert le tennis? J'ai pas de souvenir. Je pense que j'ai joué jeune parce qu'en fait, enfin, depuis toute petite, mes parents jouaient beaucoup.
D'accord.
Donc, j'ai une maman qui est prof de sport. Mon papa qui jouait aussi à un niveau complètement loisir. Ma mère a fait un petit peu de compète. Enfin, fait de la compète, même, elle joue encore. On passait beaucoup de notre temps libre le week-end, les vacances, on allait au club, quoi. Et donc,
Yes.
comme beaucoup d'enfants, c'était ouais, tu taperas les balles avec papa, maman quand ils auront fini leur heure. En attendant, prends la raquette, va jouer au mur. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, moi, petite, je voulais jouer au foot. Tu
Ah,
vois,
ok.
j'étais. Sauf qu'à l'époque, le foot féminin, c'était pas super développé. Et je pense que mes parents sentaient que j'avais besoin de me dépenser, que j'étais une sportive assez vite. Et donc, voilà, ils m'ont un peu plus orientée vers le tennis, mais je suis assez tombée amoureuse de ce sport. Et voilà, j'ai toujours joué, j'ai fait de l'école de tennis ensuite. Et puis, à partir du primaire, j'ai joué un peu plus. Et puis, je pense que j'avais des bonnes qualités, en tout cas, pas forcément technique au départ, mais physique. Voilà, je te dis, je faisais du foot dans la cour d'école. Enfin, voilà, j'étais une dingue de sport. Et puis, à la maison, on regardait les JO, on regardait la Coupe Davis. Enfin, j'ai baigné dans ce milieu-là. Donc, c'est venu un peu comme ça.
Et ta progression de non classé à moins 15, ça a été quoi, étape par étape?
Ouais, non classé à moins 15, alors j'ai dû faire un. Non. Moi, j'ai commencé quand même la compète un peu plus tard que d'autres, donc j'étais un peu en retard par rapport aux meilleures joueuses de ma région au départ.
Pourquoi tu
J'ai
as
dû.
commencé plus tard?
Je sais pas, j'ai dû faire mes premières compètes, je devais être en CE2, donc tu vois, c'était déjà du 9-10 ans. Ouais, ça doit être ça. J'ai dû commencer en Benjamin. À l'époque, il y avait du
Pourquoi
Dauphine.
tu redoutais la compète ou quoi?
Non, non, mais je pense qu'au départ, mes parents, voilà, c'était. Ouais, je n'ai pas fait forcément de compète comme ça. Puis par contre, une fois que j'ai commencé, ouais, là, j'étais mordue.
C'était lancé, ouais.
Ouais, mais j'ai fait un non classé 32. 32, 15, 5, 15, 5, 15, 1. 15, 1, 4, 6. 4, 6, 3, 6. 3, 6, 0. J'ai fait 2 ans à 0. Au lieu de l'année 0 moins 15, là, j'ai fait un grand bond. C'est l'année où je suis en terminale en 17-18. Là, je fais une super saison cette année-là. Ouais.
Et t'es au lycée classique ou t'es en sport études?
Ouais, j'ai toujours eu. J'ai toujours une scolarité complètement normale,
Ouais.
même avec une classe européenne. Donc, tu vois, j'avais même plus de cours que une collégienne quand j'étais au collège. Ouais, c'était cours 8h midi, le cours entre midi et 2. Ma mère venait me chercher à 17h,
Wow.
partait à l'entraînement.
La
Ouais, non, j'avais
tâche.
des semaines bien, bien remplies. Et ouais, scolarité normale jusqu'en terminale, je passe mon bac et l'année-là, je fais des super résultats. Enfin, je finis l'année, je gagne à promo régulièrement. Et l'année-là, en fait, à la fin du bac, je suis inscrite en classe prépa. Et quelques jours avant la rentrée, je dis à mes parents que je ne vais pas y aller, quoi.
Voilà, tu prends ton courage là.
Ouais, bah, elle était là, je fais une super saison. Je fais un quart de finale au championnat de France en junior, en battant des super joueuses. Bah, Pauline Parmentier, par exemple, qui a fait Claire Feuerstein, des filles qui ont été assez loin quand même. Bah, c'était un peu le dilemme. Je savais qu'en rentrant en classe prépa, j'allais devoir poser la raquette. Enfin, c'était plus jouable de faire les deux, quoi. Là, c'était un peu dur, surtout que j'avais un coach à l'époque, Henri Fabrega, qui s'est occupé de Anne Kremer sur le circuit
D'accord.
et qui était un super coach et lui avait envie de voir ce que ça donnait sur le circuit, moi aussi. Et là, je me suis dit, bon, non, ça va pas être jouable. Je vais dire à mes parents que j'y vais pas. Mais bon, ils se voyaient pas non plus. Enfin, et moi non plus, je me voyais pas ne rien faire d'autre à côté. Et donc, ça a été la solution un peu, bah, je vais aller en STAPS. Ma mère pouvait rien me dire, elle était prof de PS de toute façon.
Ouais.
Donc,
T'avais la
et le
parade.
système, voilà, le système fac étant un système un peu plus cool, ça me permettait de continuer à jouer. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais des copines qui sont rentrées, elles, en prépa, dans la classe prépa où j'aurais dû aller. Et le jour de la rentrée, pendant une semaine, ils faisaient l'appel en m'appelant.
Ah
Et les
oui.
copines disaient, non, mais arrêtez d'appeler, elle
Elle
est au
viendra
club,
pas.
elle est sur le terrain, elle ne viendra pas, quoi.
Ah,
Et
c'est
voilà.
ça. Et du coup, tu t'étais donné combien de temps pour te lancer sur le circuit?
Et bien en fait, je ne me suis jamais trop mis de timing. Ça a été un peu les 3 premières années de fac. J'ai fait à la fois un peu de circuit, bah les 10 000 de l'époque, quoi. Un petit peu à l'étranger, un peu en France, et la fac à côté. Le truc, c'est que bah, quand tu fais ça, t'as qu'un pied dans le circuit et tu n'y es pas à temps plein non plus. Donc au niveau tennis, ça n'a pas décollé derrière. J'avais des bons résultats, enfin voilà. Mais en fait, pour décoller à un moment, il aurait fallu que je fasse ça toutes les semaines. Et sauf qu'une semaine, j'étais à la fac, la semaine d'après, j'étais en tournoi. Après, j'avais bah, des partiels, donc il fallait que je revienne. Bon, après, je me suis bien éclatée sur le tennis universitaire, tu vois. On a fait les matchs par équipe avec les copines, on a été championne de France, vice-championne d'Europe, on a fait des trucs vraiment sympas. Mais pour le circuit, ouais, enfin, avec le recul, il aurait fallu que je prenne un temps vraiment dédié à ça et que je fasse 100% ça. Or, je ne faisais pas 100% ça. Donc,
Et c'est que tu le sentais pas assez, c'est pourquoi t'as pas fait ce choix?
pourquoi je n'ai pas fait ce choix-là? Bah, je pense que malgré tout, j'aimais les études. Il y avait ce côté peut-être rassurant pour moi de me dire, bah, j'assure les arrières. En même temps, j'avais aussi un peu une vie, alors pas tout à fait normale, mais j'avais des copains à la fac, la vie aussi un peu étudiante, tranquille, mais enfin, j'ai jamais fait trop d'excès. Mais il y avait un peu ce côté-là. Et puis en tournoi, j'adorais le tennis, enfin, voilà, j'adorais être sur le terrain, matcher, mais alors les à côté, c'était pas pour moi, quoi. Passer ma journée au club à attendre la 5e rotation à partir de 9h. Ouais, et puis l'ambiance du circuit, c'est quand même particulier, être seul. Je voyageais beaucoup seul. Donc en fait, dès que j'avais un temps libre, j'avais le nez dans les bouquins, je révisais mes cours. Par contre, j'adorais être sur le terrain et matcher, quoi. Mais la vie du circuit, je pense qu'avec le recul, c'était pas pour moi, quoi.
Ok. T'as eu des points?
Ouais, j'ai eu pas grand-chose. Je sais pas, un point et demi au départ. J'ai même pas eu de classement, tu vois, parce que mon point et demi, au bout d'un moment, je le perdais parce que je jouais pas assez.
Ouais.
Donc, Donc voilà, mais je me suis bien éclatée quand même. Et puis les matchs par équipe aussi avec Thionville, j'ai été longtemps licenciée là-bas. On a
C'est
joué
où
en première
Thionville?
division. Thionville, c'est entre Metz et Luxembourg.
D'accord. Ah
Il y a toujours eu une équipe un peu phare chez les filles à Thionville avec Sabine Pavlek, qui est coach là-bas. Et ouais, j'ai fait des super trucs
oui.
avec le club.
Comment t'as, pour accrocher les wagons avec la bioméca, comment t'as cheminé du coup dans cette direction-là?
Sur la direction sur la bioméca, ouais.
Ouais.
Ben, c'est vraiment le fait que en troisième année de fac, donc je suis en licence en licence à Metz, et là, un jour, il y a le directeur du STAPS qui me croise dans un couloir et puis qui me dit, faudrait que je passe à mon bureau, faut que je te parle d'un truc. Sur le coup, je me dis, merde, j'ai fait une connerie, qu'est-ce qui se passe? Et puis, entre deux cours, je vais à son bureau, puis il me dit, écoute, je sais pas si tu es au courant, il y a un concours au niveau national de l'ENS, donc l'École normale supérieure, et il y a un département sciences du sport et de l'éducation physique, et vu ton profil, donc j'avais des bons résultats à la fac, il me dit, oh, faudrait que tu tentes, quoi. Donc, je dis, ok, j'en parle à mes parents. Ouais, l'ENS, c'est un côté un peu prestigieux, mais. En sciences du sport, enfin, c'était tout nouveau ce département-là. Il y a l'ENS, c'est plutôt en lettres ou tu vois, je sais pas, enfin, d'autres départements, mais pas en sciences du sport. Et mes parents me disaient, ah ouais, ça peut être un super truc. Tente le concours, puis tu verras bien. Donc je m'inscris, je bosse un peu le truc. Et en fait, je suis admissible aux oraux. Donc bon. Je suis contente, j'y vais. Et le truc, c'est que les oraux tombent en même temps que la phase finale des championnats universitaires avec les filles, les copines et tout.
Ou le
Et là,
dilemme.
je me dis, ah non, et on avait gagné l'année d'avant, on était championne de France, donc on avait un titre à défendre. Et je pars, et c'est rigolo parce que je pars sur la. Je ne sais plus comment c'était, mais j'ai quand même la possibilité d'aller faire la première épreuve au niveau du concours. Et c'est la première épreuve, c'est bioméca.
D'accord.
J'arrive sur le concours et trop dur. Enfin, j'avais pas fait spécialement de bioméca moi à la fac de sport, donc il me restait des vagues souvenirs de mes cours de première terminale en physique. J'essaye de me sortir du truc, mais je sors de l'épreuve, je dis à ma mère, mais laisse tomber, je vais prendre un carton, je vais rejoindre les filles quoi. Ça sert à rien, je vais pas passer les autres épreuves, c'est mort pour moi quoi.
Ouais.
Et je savais que les copines étaient dans le nord, la rencontre démarrait le lendemain, enfin, vraiment gros dilemme. Et puis, ma mère, enfin, typique, bah non, t'as commencé un truc, tu vas au bout, quoi. Et je dis, ouais, bon, d'accord, ok, je suis inscrite au concours, j'avais dit aux filles, je vous rejoins pas. Et puis, je fais la suite des épreuves, et puis, finalement, ça cartonne sur le reste. La bioméca, j'ai pris un carton, hein, j'ai pris un 4,5,
Ah yes.
je crois. C'est rigolo parce que maintenant, voilà, on m'appelle en me disant, ouais, t'es spécialiste de bioméca, du tennis, quoi. Alors que,
On part de loin. Ouais.
ouais, sur le concours, moi, j'étais. Bah, cet aspect-là, je l'avais pas trop bossé, quoi. Bon, et puis voilà, et puis bah, au final, j'ai pas le concours la première année, mais comme ça avait bien marché sur d'autres épreuves, bah, je le repasse l'année d'après, quoi. Et l'année d'après, j'ai le concours. Donc, je pars à Rennes pour la suite de mes études. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je découvre la recherche en sciences du sport, je découvre le labo. Et ça fait tilt par rapport à des questions que moi, je me suis posées en tant que joueuse sur mon service, sur des problématiques que je rencontre sur le terrain, parce que j'entraîne des gamins aussi en club. Et je me dis, ah, bah, ça, c'est peut-être l'occasion d'allier enfin, mon côté. Scolaire et universitaire, parce que je carburais bien à l'école, avec ma passion pour le tennis et d'allier les deux. Et c'est comme ça que la bioméca est venue. Mais ce n'est pas la bioméca en elle-même qui m'a attirée. Au départ, c'est vraiment l'aspect nouvelle technologie.
D'accord. Ça
Ouais.
existe depuis quand la biomécanique?
Tu me poses une colle. Moi, y a des travaux qui datent de la fin du 19e. Les premiers qui se sont posés la question un peu de comment fonctionne le corps humain, comment il bouge, comment l'homme court ou fait un mouvement sportif, c'est Jules Maret, tu vois, ça date un peu. Et puis bon, au départ, avec les technologies de l'époque, quoi,
Ouais.
il y a toujours eu des gens qui se sont posés ces questions-là. Alors maintenant, on va dire, allez, ça s'est vraiment beaucoup accéléré, hein, ces 20 dernières années.
Tu disais que aujourd'hui, quand tu l'enseignes à l'école, au départ, les étudiants tiltent un peu en disant, oulala,
Ouais.
à quelle sauce on va être mangé?
Ouais.
Est-ce que ça veut dire, si tu l'enseignes, que ça devient un incontournable? Est-ce que tous les sports l'optimisent comme toi, tu peux le faire dans le tennis? Encore une question en deux temps, hein, tu l'auras noté.
Tous les sports l'optimisent. Oui, il y a de la recherche en biomécanique sur tous les sports. Tu vois, moi, au labo où je suis, donc moi, il y a une partie de tennis, mais j'ai des collègues qui travaillent avec le Stade Rennais en foot. Il y a des collègues qui ont travaillé avec l'équipe cycliste Sojasun à un moment, à une période. J'ai une collègue là qui lance un projet avec de la gym. On a obtenu des gros projets financés par le ministère dans le cadre de la préparation des athlètes aux JO de 2024.
OK.
Donc moi avec la FFT, mais des collègues avec la Fédération française de boxe, il y a la Fédération française de natation. Donc on a même les caméras qui vont sous l'eau.
Ah, c'est
Donc
bon ça.
ouais, il y a des trucs super qui se font. Et puis le contexte actuel avec les JO,
Oui.
est hyper porteur. Donc
On se bouge pour avoir des médailles, j'ai l'impression. C'est
ouais,
bien.
exactement, exactement. Donc tout ça participe de la dynamique en fait.
D'accord. OK.
Donc.
J'ai noté comment se développe-t-elle d'année en année? En fait, elle se développe au rythme des avancées technologiques, quoi, si je comprends bien.
Beaucoup, ouais, beaucoup. Au rythme des avancées à la fois technologiques et puis à la fois des avancées scientifiques. C'est-à-dire que la recherche, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu travailles dans ton labo avec tes collègues, mais tu sais que dans d'autres labos dans le monde, il y a des gens qui sont sur des problématiques un peu similaires. Donc là, dans le cadre du tennis, les Australiens sont assez novateurs aussi et publient beaucoup de choses. Et
D'accord.
donc, bah, des fois, tu vois passer des articles scientifiques de collègues qui ont publié des choses et tu. Bah, déjà, ça peut te permettre de répondre à tes propres questions et ça fait avancer le cheminement commun, en fait. Tu dis, ah ouais, on en est là, ah, ça me fait penser à ça, bah, nous, on va mettre ça en place pour essayer d'aller plus loin. Et c'est ça qui est sympa dans la recherche et qui est stimulant, c'est que tu comptes, chacun apporte sa pierre et puis, hop, ça semble au fur et à mesure. Et donc, collectivement, ça se fait, même si on ne travaille pas ensemble, quoi.
Dans le tennis, c'est les Australiens les numéros un mondiaux de la bioméca?
Les numéros mondiaux, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup, en tout cas, ils ont beaucoup porté cet aspect-là pendant longtemps.
Ouais.
Il y a l'université de l'UWA, l'Université of Western Australia à Perth, qui est hyper en avance sur ces questions-là et qui a beaucoup publié sur le tennis. Et les Américains aussi. Moi, sur ma thèse, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'ils faisaient les Américains sur le baseball. Parce
D'accord.
qu'entre le baseball et le service, il y a des choses un peu similaires en termes de mouvement sur
OK.
le lancer, le pitch. Donc voilà, les Américains. Et puis nous aussi, maintenant, les petits Français, on est là.
On est dans le top 3 mondial, tu dirais?
Oh ouais, je pense. Enfin, sur la bioméca tennis, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais ouais, Rennes est bien placée quand même aussi.
T'es dans le big three, quoi.
Allez, on va dire.
Et t'es plutôt numéro 2, numéro 1 ou numéro
Ouais,
3?
je sais pas. Après, sur l'aspect publication scientifique, c'est difficile de dire parce qu'il y a des choses aussi assez différentes. Nous, on est une petite équipe encore. Tu vois, on est trois à bosser là-dessus et puis on a des stagiaires qui viennent. Mais tu as des équipes où ils sont 10, 15, donc c'est difficile de comparer. On n'a pas les mêmes moyens non plus, peut-être financiers. Après, je pense que nous, on est bien placés sur tout l'aspect accompagnement des sportifs de haut niveau. Le fait qu'on ait des joueurs, que ce soit enfin, Medvedev, Ogier Aliassime, Jaber, Hugo Humbert et d'autres, Hugo Gaston, qui soient venus, je pense qu'on est pas the place to be, mais pas loin pour les meilleurs, quoi.
Et vous faites des zooms avec les Australiens, les Américains pour échanger un peu vos méthodes ou vous vous
Alors,
rencontrez, tu vas les
des
voir?
zooms, bah, c'est
Comment ça marche?
arrivé qu'on se rencontre dans le cadre de colloques. Souvent, c'est là que tu vois les collègues parce que chacun vient présenter un peu l'avancée de ses travaux. Et donc, tu rencontres les gens. Alors, ces 2 dernières années, avec la situation sanitaire, on n'a quasiment pas bougé. Là, dernièrement, tu vois, j'ai participé au colloque pour les enseignants de l'ITF. Et donc, il y avait collègues américains, collègues australiens. On était dans la même session de présentation, donc tu vois un peu ce que font les autres. Sinon, on se contacte par mail. Mais j'ai jamais eu l'occasion. J'aimerais bien, quand la situation peut-être le permettra, et quand aussi mes enfants peut-être seront un peu plus grands, mais de bouger, aller en Australie, voir leur labo et voir comment ils travaillent au quotidien.
Yes.
Donc, voilà.
J'ai lu que tu disais que la bioméca au plus haut niveau, c'est quelques pourcentages, quelques kilomètres-heure en plus à aller grappiller, un peu comme la stat avec Fabs
Ouais.
Barrault. Et à un niveau un peu inférieur, à un joueur de club par exemple, si tu analyses déjà un service ou un coup en vidéo, comme tu le disais tout à l'heure, tu penses qu'on va chercher, on peut aller grappiller combien de pourcentages?
Ouais, c'est difficile à dire, mais nous, sur des joueurs, on va dire, allez, seconde série, négat ou même promo, tu vois, qui viennent, des fois, entre deux techniques de service, on voit des écarts de 5-7 km/h. Tu vois, ça, je sais pas, ça peut passer des fois. Un gars qui sert à 190, bah, sur une autre technique, on voit que tout de suite, ça passe à 197. Alors, un joueur de club, ça peut être un peu plus. Après, c'est pas magique non plus. Il y a tout le travail à faire à l'entraînement de répétition et d'ancrage de la technique pour que bah, le joueur se l'approprie. Et puis, il y a aussi le fait que ben, quand les joueurs viennent se faire tester au labo, ils n'ont pas de pression, quoi. Il n'y a pas d'adversaire en face, il n'y a pas d'enjeu.
Bien sûr.
Alors même si parfois certains sont un peu stressés parce qu'il y a les marqueurs, il y a les caméras, puis tu sens qu'ils veulent bien faire aussi. On a le radar qui leur donne la vitesse de balle. Souvent les jeunes, ils sont comme ça. Le premier truc, les gamins du Pôle France de Poitiers, le premier truc, c'est ah, j'ai servi à combien, tu vois. Mais ouais, c'est pas immédiat, c'est pas magique. Il y a du boulot à faire. Et ouais, ce que je disais, c'est qu'au labo, ils n'ont pas de pression, il n'y a pas de stress. Donc, il y a la technique que tu fais au labo. Et puis après, bah, quand tu es en match et que tu es sur balle de break à 5 partout au troisième, c'est peut-être pas la même chose. Donc,
On en reparle.
voilà. Donc, il y a du boulot pour que la technique, elle s'ancre vraiment durablement, qu'elle ne soit pas perturbée ni par la fatigue ni par le stress, ou en tout cas le moins possible. Et là, un des enjeux forts pour nous dans les années à venir, ça va être d'analyser la technique du joueur non plus en situation de labo, mais en situation réelle d'entraînement et de compétition. Et
Yes.
là, ça passe par un développement technologique, c'est de la capture de mouvement, donc l'analyse qu'on fait avec des caméras, mais qu'on appelle markerless, où il n'y aurait plus besoin de poser des marqueurs sur le joueur. Donc, on peut sortir des conditions de labo, tu vois, et aller mettre des caméras en compétition et voir ce qui se passe vraiment en compétition. Et ça peut être intéressant d'aller comparer, bah voilà, quand le joueur il démarre son match sur des points qui sont peut-être moins importants, comparer le service avec la fin du match, quand il y a de la fatigue, quand il y a du stress, et voir si éventuellement la performance se dégrade, qu'est-ce qui est affecté dans le mouvement, est-ce que c'est la poussée des jambes, est-ce que le joueur pousse moins bien quand il est stressé, est-ce qu'il s'engage moins vers l'avant, est-ce qu'il se recroqueville et qu'il touche la balle moins haut. Enfin, après, on peut imaginer plein de choses, mais vraiment, l'enjeu, ça va être ça, de plus avoir besoin de poser des marqueurs et juste des caméras autour du terrain et pouvoir faire ça
Ah ouais, ça,
n'importe quand.
c'est incroyable. Et ça veut dire qu'il faut l'autorisation du tournoi, faut que le joueur. C'est le joueur qui fait la demande, tout ça, comment ça marche
Alors,
avec?
pour l'instant, on n'y est pas, tu vois, sur ces trucs-là. On sait que les outils techno sont. Il y a déjà des outils techno sur le marché qui existent. La première chose, déjà, c'est de les valider, parce que ça a été validé, tu vois, cette approche sans marqueur sur des mouvements sportifs simples, comme la course à pied, le vélo, parce que simple dans le sens où on est toujours dans le même plan du mouvement. Le service, c'est compliqué. T'es sur de la 3D, il y a des rotations de partout. Donc, faut qu'on valide le système sans marqueur sur le service. Une fois qu'il sera validé, on l'utilisera déjà à l'entraînement. Donc là, on n'aura pas besoin des autorisations des tournois. Et puis ensuite, ben, on ira démarcher peut-être les tournois et les joueurs pour voir si on peut poser nos caméras sur un tournoi et voir ce que ça donne, quoi. Mais
D'accord.
on n'y est pas encore. Mais dans
Ouais.
les quelques, enfin, les années qui viennent,
C'est le
c'est le
futur, quoi.
but, quoi. Et là, tu
Waouh.
vois, on va au CNE dans 10 jours. Parce que par contre, là, pour le coup, on sort le système du labo. Ce système avec marqueur que nous, on a au labo, on le sort, on va le mettre une semaine au CNE pour bosser avec les joueurs de la FFT dans le cadre du projet JO 2024.
Ok.
Ouais.
Incroyable. Toujours plus de technologie,
Ça
Caroline.
va.
Où nous arrêterons-nous?
Je sais pas.
Ok, putain, c'est incroyable. Est-ce que si des auditeurs du podcast nous disent, m'envoient des mails en me disant, j'aimerais que Caro décortique mon service, est-ce que je peux lui envoyer une vidéo WhatsApp? Est-ce que tu as un peu de temps devant toi? Parce que je sens que ça va venir, ce genre de truc. Comment ça
Écoute,
marche?
tu peux leur donner mon contact Et puis, c'est vrai que moi, je suis bien
Chargé.
occupée, bien
Ouais,
chargée.
ouais.
Après, bah, je peux échanger avec eux et puis on verra en fonction du niveau, de l'urgence, des besoins. Et
Ok.
soit on fera de la vidéo 2D, soit c'est des joueurs de meilleur niveau, on peut faire de la 3D. Après, nous, la difficulté aussi, c'est qu'au labo, je ne suis pas toute seule. J'ai des collègues, je t'ai dit, qui travaillent avec le Stade Rennais, avec la gym, avec la boxe. Et on a un gymnase. Donc, il faut aussi qu'on se partage les installations. Parfois, ça arrive qu'il y ait un peu des embouteillages. Voilà, on réserve la salle en avance. Et par contre, quand c'est du très haut niveau, bon, on arrive toujours à s'arranger avec les collègues en disant, bon, allez, fais-moi de la place là aujourd'hui parce que j'ai Jabber ou j'ai Aliassim qui vient, donc je ne peux pas dire non.
Yes.
Voilà, après, avec des joueurs de club, ben, des fois, il y a un peu de délai, il faut attendre un peu, mais
Normal.
les gens peuvent me contacter et puis
Qu'est-ce
on
que tu as
verra.
compris de majeur grâce à ton expérience avec les années sur ton métier que tu mettrais en place si tu étais à l'époque où t'aimais, enfin t'avais envie en tout cas de percer sur le circuit?
Ouais, plein de
Ok.
trucs. Sur le service, en tout cas, déjà, moi, j'ai eu des problèmes d'épaule. À 18-19 ans, là, des problèmes de tendinite récurrente à l'épaule et j'avais passé un IRM. Et je me rappellerai toujours, je sors de l'IRM et je sais, enfin, le médecin qui récupère l'imagerie, il me regarde puis il me dit, mais vous avez quel âge? Bah, je sais pas, j'avais 18, je crois, à l'époque. Il me dit, bah, écoutez, votre épaule, elle a plutôt l'âge de 40 ans, quoi.
Wow.
Et là, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, wow. Bon, bah, pas super. Et donc, ouais, il y a des choses techniquement que j'ai même modifiées depuis dans mon service
D'accord.
par rapport aux connaissances que j'ai maintenant sur la bioméca. Tu vois, j'avais un relais d'appui qui n'était pas très efficace avec le pied qui vient sur le côté. Donc, ça faisait tourner mes hanches très tôt face au filet. L'épaule qui était écartelée derrière, je pense que ça a vraiment fait du mal pendant longtemps à mon épaule. Un manque de poussée des jambes. Enfin voilà, il y a plein de choses que maintenant, moi, j'essaye de faire. Alors, avec ma pratique de joueuse beaucoup plus loisir maintenant, je vais taper le samedi avec les copines au club. Et souvent, quand on part sur des points ou qu'on part sur des services, ouais, j'essaie de tester des.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Des petits trucs pour moi que je dis à certains joueurs de haut niveau, tu vois, c'est ça qui est rigolo. Mais ouais, il y a plein de choses que je ferais différemment. Mais parce que les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, elles sont bien meilleures que celles d'il y a 20 ans. Et donc, elles sont bien meilleures. Maintenant, tout le monde n'y a pas encore accès, tu vois. Dans la formation des entraîneurs, il y a vraiment du travail encore pour vulgariser les choses et l'empirisme, c'est bien aussi, hein, l'œil du maquignon, la compétence et l'expertise d'un entraîneur, l'expérience, ça ne se remplace pas. Mais on voit que les tout meilleurs, bah, Medvedev et compagnie, ils s'entourent de spécialistes dans plein de domaines. Et je pense que, en tout cas pour le haut niveau, ça va aller de plus en plus vers ça, quoi.
Justement, je crois que c'est un de vos enjeux aujourd'hui, c'est de former les coachs, c'est ça, de former les entraîneurs?
Ouais, on essaye Bah moi, j'interviens pas mal dans les formations DE, DES, tu vois, sur bah, les aspects bioméca.
DES, c'est quoi le S?
Le diplôme d'enseignement supérieur, non? C'est
Ok,
ça?
bon, tout simplement, merci.
C'est le BE1, BE2, quoi, tu
Ok,
vois.
très bien.
Ouais, c'est donc maintenant, ça s'appelle DE, DES. J'essaye aussi, bah, c'était le but du bouquin qu'on a sorti avec des collègues, de faire un état des lieux des connaissances scientifiques à l'heure actuelle et de les vulgariser auprès d'un maximum d'entraîneurs, de joueurs, d'étudiants, de kinés, enfin, tu vois, de gens intéressés par le tennis. Parce qu'en fait, la recherche scientifique, quelque part, elle est assez mal faite. C'est que nous, on publie des articles scientifiques en anglais dans des revues qui sont inaccessibles au grand public, qui sont réservées aux spécialistes, qui coûtent cher. Parce qu'un article, parfois, il faut payer 40 euros pour avoir accès juste à un article. Et l'idée, c'est vraiment de vulgariser, de diffuser ces connaissances et qu'elles ne restent pas juste cantonnées aux spécialistes de bioméca ou aux spécialistes de physiologie du tennis, mais que ça diffuse déjà auprès des entraîneurs de haut niveau et puis petit à petit, peut-être plus dans les ligues, dans les comités, puis vers les entraîneurs de clubs. Donc, il y a ce travail-là de vulgarisation à faire. Ouais.
Ton livre, t'as senti un avant-après en termes de, je sais pas, généralement quand on sort un livre, on s'installe un peu en tant qu'expert dans son domaine, encore un peu plus, on s'ancre davantage. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il a bien marché? Est-ce que tu as eu des retours positifs?
Ouais, le livre a plutôt bien marché. Je crois qu'ils ont même sorti enfin, ils ont dû refaire des tirages, tu vois, parce qu'il y avait de la demande. Donc ça, bon, après, c'était pas pris Goncourt, hein, faut... On était parti sur 1 500 exemplaires et tout a été vendu en 2-3 ans, donc ce qui est bien pour un ouvrage de ce type-là, en fait.
D'accord.
Et donc, ils ont refait un tirage. Ils voulaient qu'il y ait, enfin, j'avais discuté avec l'éditeur pour qu'il y ait une deuxième édition, sauf que bon, j'ai absolument pas eu le temps. C'est vrai qu'il faudrait mettre à jour régulièrement. Voilà, mais c'est un projet de partir sur une deuxième édition. Mais bon, il y a eu un deuxième enfant aussi entre-temps. Enfin voilà, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer et
Ah, il y en a des
c'est quelque chose.
projets.
Ah bah oui, tu peux pas être partout. À un moment, faut faire des choix aussi. Faut prioriser. Et donc voilà, il y a l'idée de faire un bouquin numéro 2 ou de mettre à jour le premier. Je suis pas mal aussi des fois sollicité pour des demandes de traduction en anglais, parce qu'il y a des coachs étrangers qui me disent: ah ouais, mais moi je parle pas français, donc j'aimerais bien l'avoir, mais pour l'instant il faudrait que je pousse auprès de l'éditeur pour que ce soit fait. Et oui, le bouquin a bien marché et bah, ça permet encore d'asseoir un peu plus la visibilité du travail qui est fait à Rennes.
Yes.
Et voilà, après ça n'a pas révolutionné non plus le truc, mais ça y contribue, quoi, à faire avancer là.
Est-ce que tu as des anecdotes sympas avec les joueurs un peu connus qui sont passés entre tes mains, que tu pourrais nous relayer un truc ou deux qui illustrent?
Ouais. Alors, les anecdotes sympas, ouais, c'est un truc un peu rigolo. C'est ben, bon, quand Medvedev il vient, tu vois, bon, il n'était pas connu à l'époque, hein, je veux dire ce qu'il est, il était 66 ou 68, je sais plus. Et il vient, donc il s'échauffe avec Gilles. Donc on lui dit: bah, échauffe-toi dans cette partie terrain avec Gilles. Nous, on finit d'installer les caméras dans l'autre partie. Et puis, quand même, avec mon collègue Pierre, on regardait quand même d'un œil ce qu'il faisait avec Gilles. Et puis, on regarde. Puis, avec Pierre, on se dit: mais putain, le mec, il est pas très coordonné quand même. Enfin, c'est étonnant. Enfin, voilà, tu vois l'allure qu'il a, tout grand, un peu déguingandé comme ça. Et donc, on se fait juste cette réflexion-là, tu vois, en off, tous les deux. Et puis après, il se met à servir et voilà, il nous a calmés, tu vois. Et puis, oui, il y a cette technique un peu étonnante, même dans sa façon de bouger, dans sa façon de s'échauffer, ce qui nous avait surprise. Et puis derrière, moi, tu le vois au service, et là, le mec, il est bien coordonné, il n'y a pas de souci.
C'est étonnant ce contraste entre coup
Ouais.
droit revers et comment tu l'expliques et le service.
Honnêtement, non, je ne l'explique pas. Enfin, après, c'est lui, quoi. C'est sa façon de bouger. Il y a un courant dont on parle beaucoup actuellement, c'est les préférences motrices ou les préférences naturelles de chacun. Est-ce que
D'accord.
tu es plutôt aérien ou tu es plutôt terrien? Tu vois, est-ce que tu aimes bien être bien ancré au sol ou au contraire, plutôt en rebond? Est-ce que tu aimes être près du corps ou loin du corps? Ben voilà, on a tous des préférences dans notre façon de bouger, de se comporter. On est déjà droitier, gaucher, on a un œil directeur préférentiel. Et ben Daniil, c'est sa façon, voilà, il est comme ça naturellement dans son mouvement. Son mouvement est comme ça. Au service, ce qui est assez étonnant, c'est moi, ce qui me frappe quand je vois jouer sur des matchs, c'est la capacité qu'il a à enchaîner. C'est-à-dire qu'il fait rebondir la balle une fois, il envoie, il récupère une balle et ça repart. Et voilà, le truc est rodé au millimètre. T'as l'impression qu'il se pose zéro question. Ça, c'est assez étonnant. Et puis, avec les tout meilleurs aussi, bah, ce qu'on voit, ce qui fait la différence avec les joueurs d'un moins bon niveau, c'est que quand il y a échange avec le coach et qu'ils sont vraiment concernés par le truc, tu vois, quand le coach donne une directive, bah, elle est appliquée en direct, quoi. Il y a une petite modification, tout de suite, c'est mis en place. C'est ce qui me frappe à chaque fois, quoi. Les meilleurs,
ouais.
Jabber, on a testé un autre truc en coup droit, aucune difficulté pour le mettre en place. Après, tu échanges avec elle sur le ressenti, comment tu te sens, tu as l'impression que c'est mieux, pas mieux. Nous, on va vérifier aussi si ça s'améliore, la vitesse de balle, la vitesse de tête de raquette. Mais assez vite, quand même, les meilleurs, quand tu demandes une modification technique, alors soit ils te disent direct non, c'est un truc, je le sens pas.
Ouais.
Soit ils le mettent en place vraiment très vite. Et ils ont cette faculté-là, je trouve, à... Bah, toi, tu vas mettre des mois à changer.
Ouais.
Quand eux, ils le font très vite. Après, ça veut pas dire qu'ils vont adopter le truc dans le temps, mais ils ont quand même une capacité d'adaptation, je trouve, qui est assez forte. Donc ouais, sur Daniil, c'est un peu cette image-là qui me reste. Et puis l'autre truc sympa, c'est que je crois qu'après la séance, Gilles repartait en avion dans le sud et Daniil restait à Rennes parce qu'il devait repartir sur un tournoi ensuite. Et donc, je l'ai ramené à la gare dans ma voiture. On a discuté un peu comme il parle français. Et ça, c'était le côté sympa de me dire, ouais, j'ai ramené Daniil à l'hôtel. J'ai eu le temps d'échanger avec lui 20 minutes dans la voiture et de discuter. Ça reste un bon souvenir. Et voilà. Bon, je sais pas si aujourd'hui, je pourrais le ramener encore. Tu vois, je pense qu'il aurait un taxi qui l'attendrait direct. Mais ça, c'était chouette.
Et Félix, il t'a dégagé un truc en particulier?
Félix, ouais, Félix c'était étonnant aussi, dans la mesure où ça s'est fait très très vite. Un des coachs m'avait appelé genre le lundi, en début de semaine, en me disant bah, on est intéressé, on est en Europe, il joue la finale de Coupe Davis ce week-end, on veut qu'il vienne à Rennes, quoi. Et en fait, il a joué le dernier simple de la Coupe Davis, je crois, le dimanche soir, contre Bautista Agut, si je dis pas de bêtises. Il finit le dimanche soir hyper tard à Madrid et le lundi matin, ils étaient à Rennes, quoi. Donc ça, c'était un peu le... Tu vois, je le regardais à la télé le dimanche et le lundi, il était en face de moi au labo.
Tu l'as dit tout à l'heure, ils n'ont pas le time, les gars. Ça, faut que ça enchaîne.
Ah ouais, non, c'est... Non, non, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas... Voilà, ils ont pris l'avion le lundi matin. Depuis Madrid, ils étaient à Rennes et il a débarqué avec... C'est deux coachs tennis, donc il y avait Fred Fantin et Guillaume Marx à l'époque qui s'occupaient de lui. Il y avait son préparateur physique, enfin il y avait au moins 4 ou 5 personnes autour de lui, tu vois. Là, c'était vraiment, ils ont débarqué. Bon, en même temps, ils étaient à Madrid tous ensemble, ils sont tous arrivés. Et là, c'était l'aspect vraiment, tu sentais un peu pro du truc et pas la star, mais bon. Voilà, qui en imposait, quoi. Autant Daniil, il est venu, tu vois, il était 66, il est venu juste avec Gilles.
Ouais.
C'était peut-être plus accessible. Ouais. Et puis Félix, au départ, tu sentais qu'il était un peu fermé, peut-être, enfin pas fermé à l'approche et tout, mais un peu froid avec nous dans le relationnel. Enfin, c'était très pro, très cadré, mais il y a des joueurs avec qui, assez vite, tu crées un contact et tu sens que tu ne vas pas déconner, évidemment, mais tu essaies d'instaurer une relation de confiance et d'avoir un moment agréable. Félix était assez froid au départ. Et puis, par contre, au fur et à mesure de la séance, ça s'est transformé. Il était hyper souriant à la fin, hyper ouvert.
Okay.
Bon, mais il y avait aussi, je pense, de son côté, la fatigue. Il venait d'enchaîner avec la finale de Coupe Davis. Enfin, beaucoup de choses. Donc, voilà. Et, par contre, ouais, une puissance au service. Là, ça m'avait... Cet aspect athlétique chez Félix, ça m'avait marqué, tu vois. Autant l'aspect chez Daniil, un peu déguingandé sur la phase « je m'échauffe, je fais ma petite prépa physique, après je rentre au service, j'envoie, il n'y a pas de problème. » Mais chez Félix, ouais, carré et athlétique.
Alors,
c'est l'impression d'avoir une bête physique qui, sur la poussée des jambes, on n'avait jamais eu ces valeurs-là, quoi, avec un joueur.
Bon, et un Français, quand même, Hugo Humbert, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, bah, Hugo Humbert, adorable,
ouais.
Sur le relationnel. En plus, il est de Metz, alors c'est facile avec lui ou avec Harold Maillot, qui est déjà venu plein de fois aussi. Harold, il est venu 4 fois déjà.
D'accord.
Harold, c'est ce qui est rigolo, on l'a fait passer tout petit. Enfin, tout petit, il avait 13 ans, il était au Pôle France de Poitiers. Et depuis qu'il a 13 ans, maintenant il en a 19 ou 20, il est déjà venu 4 fois. Donc c'est cool parce que pour lui, on a vraiment l'évolution aussi depuis qu'il est tout jeune. Enfin bref, que ce soit avec Humbert ou Maillot, à chaque fois, je rappelle que je suis messe. Et donc il y a un peu ce côté-là
Ouais, bien sûr.
des racines communes. Et Hugo Humbert, ouais, adorable, hyper gentil, très accessible. Sur la technique de service, c'était aussi très très propre. C'était aussi de l'ordre du réglage avec son entraîneur Cyril Brechbuhl. C'était Cyril qui s'occupait de lui à l'époque. Et on avait vraiment pour Hugo essayé de faire le lien au maximum entre ses préférences motrices et sa technique de service. C'était un peu ça la commande
D'accord.
d'aller là-dessus. Et ouais, j'ai pas d'anecdote en particulier avec ça, mais c'était une chouette séance aussi. Ouais, j'ai des bons souvenirs.
On a eu Harold et Thierry Tulane sur le podcast
Direct,
là, pour les gens qui
ouais.
écouteront et qui ont envie
Ok.
d'aller un peu plus loin avec eux. C'était hyper chouette parce que Harold avait fait la finale à l'Open d'Australie. Et puis Thierry nous parle de sa carrière dans la
Ok.
première partie et puis de sa carrière de coach dans la deuxième. Il est incroyable, il se confie tellement.
C'est
C'est
vrai, ouais.
il était venu te voir avec Harold ou...
Oui, il est venu. Ouais. Et puis on
Okay.
a même fait. En fait, il est venu sur le dernier test d'Harold. Les trois précédents, bah non, Harold avait d'autres coachs à l'époque. Mais le dernier test, ils sont venus en juillet là, de cette année. Et on a fait un débriefing après, ouais, d'une heure quasiment avec Thierry et puis Seb Poublet, le préparateur physique. Ouais.
Et comment ce bon vieux Ivan Ljubicic a atterri entre tes mains à Rennes?
Alors ça, c'était pas à Rennes. Là, pour le coup, c'était à Metz.
D'accord.
Parce qu'au départ, quand moi je commence dans la bioméca, bah, faut bien récupérer des données sur les joueurs.
Bien sûr.
Et sauf qu'au départ, j'ai pas la renommée. Enfin voilà, on me connaît pas, je suis rien. Donc au début, bah, je vais demander à des potes de la section sportive universitaire qui s'entraînent avec moi, qui sont des joueurs de seconde série, de venir se faire tester parce qu'il faut que je récupère des données. Et le meilleur, c'est Charles-Antoine Brézac quand même. Donc j'ai quand même accès à Charles-Antoine. Donc au départ, voilà, je fais des tests sur des joueurs de club, seconde série ou au-dessus. Et puis après, bah, je veux passer la vitesse supérieure, mais la question se pose de comment je vais récupérer des données sur du haut niveau. Et comme je suis de Metz et que je connais Julien Boutère, qui est directeur de l'Open de Moselle, je demande à Julien si je peux venir installer le système de caméra pendant le tournoi à côté des cours d'entraînement à la SPTT Metz. Et Julien, super sympa, me dit oui, ok. Donc là, il faut m'imaginer à l'époque partir avec trois personnes du labo, donc un ingé, mon directeur de thèse et puis un autre collègue qui était en thèse au labo. On part, on loue un camion, on met les caméras dans le camion et on fait Rennes-Metz.
Le
On va
matériel,
installer.
coûte combien
Le
comme ça
mat
à la louche?
hein, le matériel, il y en a pour 300 000 euros à l'époque.
Wouah, putain, dans le camion, tu mets du papier
Ouais.
bulle. Hein.
Ouais, et puis surtout, tu pries déjà pour que le directeur du labo t'autorise à sortir le matériel du labo,
Oui,
parce
ouais, bien
que
sûr.
c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance qu'on m'ait laissé carte blanche. Enfin, vraiment, pour ça, je les remercierai toujours, hein, mes encadrants, d'avoir dit OK quasiment à toutes les demandes que j'avais. Et je pars à l'Open de Moselle avec les caméras. On installe les caméras à la SPTT Metz sous une bulle. Enfin, tu vois le truc. Et puis là, bah, on se dit, bah, de toute façon, les joueurs vont taper à côté. Donc, on va aller les démarcher, quoi.
Yes.
Quand même, je demande à Julien de faire un peu la promo du truc et d'essayer
Ah
d'avoir
oui.
l'accord de deux, trois joueurs pour qu'on n'y aille pas pour rien. Parce que,
Bien sûr, ouais.
voilà. Et donc, il me dit, oh, ouais, t'inquiète, je vais voir avec certains. Et je pense qu'il s'entendait bien avec Ivan. Il était assez proche d'Ivan. Et il me dit, t'auras l'accord. Enfin, Ivan a dit, OK, il passera, quoi. Et donc, pendant 2 jours, on a testé des joueurs. Donc, on allait sur les cours d'entraînement et puis on disait, bah voilà, on est à côté, si ça vous dit, c'est une nouvelle technologie. Enfin, on a essayé de vendre le truc le mieux possible. Et pour l'anecdote, bah, pour sécuriser le matériel, on a dormi sur le terrain avec sac de couchage.
C'est pas vrai.
Ah bah si, parce qu'on n'avait pas d'autre moyen que de. Donc, j'ai dormi sur un terrain de tennis, sur une moquette de la SPTT Metz avec mon sac de couchage. au mois de septembre avec mes collègues. Voilà, chacun avait son petit sac de couchage et
Ça, c'est
son
beau,
tapis
ça.
de camping. Et pour pas qu'on se fasse voler les caméras, on n'avait pas moyen de sécuriser. Donc voilà, un
Il
peu les
faudra
galères de.
passer sur le corps. Ça, c'est une belle anecdote qu'on pourra raconter des années après.
Les galères du début, et même mes collègues, bah, souvent, parce qu'ils sont toujours au labo, et ils disent, ah, punaise, tu nous as quand même fait dormir sur un terrain de tennis, quoi.
Ça, c'est de la détermination, on aime. Il y a qui d'autre comme joueur qui est passé entre vos mains au...
Alors là, sur l'Open de Moselle, donc il y a Ivan Lubicic, Pierre Hugerbert, qui était tout jeune, qui était en qualif, qui avait 19 ans.
Ok.
Il était 900e mondial. Federico Delbonis aussi, qui était junior, enfin junior, qui sortait de junior, qui avait 19-20 ans. Misha Zverev. Et là, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir testé Alexander, qui était sur le terrain d'à côté, enfin qui échauffait son frère, qui avait 12 ou 13 ans, mais qui jouait déjà négat. Enfin, c'était incroyable ça. À 13 ans, il jouait moins 15 déjà, c'était. Ah ouais, non, un truc de fou. Et enfin, quand tu vois là où il est, je me dis, putain, c'est quand même con
Ah, tu m'étonnes.
de pas lui avoir proposé.
Oh,
Voilà,
le
mais.
petit, non, le petit, oh,
Bah, le petit,
perte
ouais,
de
on s'en.
temps.
Enfin, ouais, non, ouais. Donc, il y a ça. Et je regrette aussi parce qu'il y avait Marin Cilic qui était sur le terrain, qui tapait avec Ivan et qui était OK pour faire le test avec nous. Sauf qu'on a pris beaucoup de temps avec Ivan parce que bah, déjà, il servait hyper fort. Il transpirait beaucoup et donc les marqueurs avaient tendance à tomber. Donc quand les
D'accord.
marqueurs tombent, il faut les recoller. Donc au lieu de prendre 1 heure avec lui, on a peut-être pris 1 heure et demie ou 1 heure 45. Et après, Marine a dit, ben non, là, faut qu'on reparte sur le site du tournoi. Tant pis. Et donc ça a été un peu dommage. Mais après, on a fait passer pas mal de joueurs de double aussi. Et Martin Fucsovics, qui était numéro un mondial junior, tu vois, et qui maintenant est dans le top 50.
Et les mecs te faisaient des retours quasi instantanés sur un avant-après, je sais pas.
Non, alors là, honnêtement, je vais absolument pas mentir. Je n'ai contribué en rien à l'augmentation de la performance chez ces joueurs-là. Ça a
D'accord.
été pour moi un moyen de récupérer des données
D'accord.
et de commencer à construire mes modèles d'analyse bioméca, de commencer
OK.
à construire ma base de données. Je leur avais quand même fait, ils ont tous eu un compte rendu que j'avais envoyé par mail. Avec quelques paramètres, mais j'étais beaucoup moins compétente qu'aujourd'hui. Donc,
Yes.
voilà. Non, aujourd'hui, je me verrais mal envoyer un mail à Ivan Lubicic en disant coucou, tu te rappelles, il y a 10 ans. Bon, peut-être qu'il se rappelle, hein, je ne sais pas,
Sûr.
mais voilà. L'impact pour lui, je pense qu'il a été, je ne vais pas dire nul, mais au moins il a testé la techno. Voilà, il a participé au truc, j'avais fait un petit retour, mais non, ça a été surtout pour moi que ça a été hyper intéressant de récupérer des données, plus que pour eux. Et Dustin Brown aussi était passé, c'était
Ah
rigolo.
yes,
Mais là,
génial.
c'était un peu la galère parce qu'avec ses cheveux pour lui coller les marqueurs et tout, c'était un peu plus galère. Mais il y avait eu Dustin aussi. Ouais.
Et est-ce que tu sais un peu si Roger, Rafa et Joko font appel à des biomécaniciens, à des tests, à ta technologie?
Non, je ne sais pas. Enfin, nous, en tout cas, on n'a jamais été contactés pour ces trois joueurs-là. Est-ce que eux ont utilisé ça à un moment donné de leur carrière? Je ne peux pas répondre à la question, je ne sais pas.
J'ai eu la chance d'échanger avec Tony pendant 2 heures.
Ouais.
Et c'est une bien belle interview qu'on n'a pas encore diffusée, mais qui viendra. Et il me disait qu'à un moment donné, il se questionnait sur la vitesse de la balle après rebond du service de Rafa sur première
Ouais,
balle. Il disait, c'est incroyable, sa balle décélère alors que Joko et Roger, eux, gardent une vitesse beaucoup plus importante après le premier rebond. Et du coup, il a cherché, cherché, cherché. Et il me dit, en fait, on est là. À New York, déjà il avait dit à Rafa, écoute, c'est à cause de ta pronation au service, elle n'est pas
d'accord,
assez marquée, et du
d'accord.
coup après le rebond, ta balle perd trop en vitesse, et ils ont terminé à New York, je ne sais pas où, à faire des tests qui ont vérifié du coup ce que
Parce
Tony avançait,
que d'accord,
alors que Rafa était hyper sceptique,
ouais.
et au final il m'expliquait que Rafa avait vachement progressé en vitesse de service un peu grâce à ça.
Ah ça, ouais.
Est-ce que c'est un paramètre sur lequel tu bosses, un truc que tu analyses aussi? Enfin,
Nous, pour l'instant, la vitesse de balle, on la prend en compte vraiment pour avoir une idée de comment se passe le lancer
ouais.
et où se situe l'impact. on ne va pas jusqu'à traquer la balle, à suivre la balle tout au long de la trajectoire et sur le rebond. Mais c'est des choses, tu vois, tu me donnes des idées, c'est des choses qu'on pourrait éventuellement aller regarder. J'imagine aussi que peut-être que les données, tout ce qui est donné au CAI, en fait, permettent d'avoir accès à ces infos-là. Mais c'est vrai que faire le lien entre le résultat, finalement, qui est la trajectoire de balle et la vitesse de balle, et la position de la balle à l'impact, et ce qui se passe avant sur le mouvement, ça a un vrai intérêt. Donc oui, c'est des choses qu'on pourrait être amené à faire. Et là, le fait que maintenant, on ait une trentaine de caméras au labo, on peut couvrir l'ensemble du terrain. Avant, on est passé d'une dizaine à une trentaine. Donc quand tu n'as que 10 caméras, tu focalises toutes tes caméras sur le serveur, en fait, parce que tu ne veux pas perdre de données. Et quand tu as plus de caméras, bah, tu peux étendre la zone de capture. Et maintenant, on est capable quasiment de capturer tout le terrain. Et un truc qu'on voudrait faire, c'est aller sur le duel serveur-relanceur, tu vois. Tu captures le mouvement à la fois du serveur et à la fois du relanceur pour améliorer aussi la performance du relanceur.
Énorme. Trop bien. Voilà. Tu disais que Serena, c'était la meilleure serveuse du circuit. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais lui apporter en plus, un petit pourcentage?
C'est difficile parce que la technique, elle est tellement huilée, en tout cas d'un œil extérieur chez Serena. Peut-être que si j'avais à lui donner, faudrait vérifier déjà par les données ce que ça donne, mais aller sur une poussée des jambes peut-être un peu plus importante quand je vois son service, j'irais peut-être là-dessus. Après, c'est fluide, techniquement, c'est quand même hyper propre. Il y a aussi l'idée de se dire que parfois, quand c'est propre, bah, il n'y a rien à dire, tu vois, et que ça ne sert à rien d'aller chercher des trucs ou de forcément vouloir dire quelque chose aux joueurs. Alors qu'il n'y a pas besoin. Et il y a même des fois, nous, sur le compte-rendu, ben, on a un code couleur, tu vois, on met des paramètres en vert quand ça nous paraît être dans les clous, orange s'il y a des petites choses peut-être à améliorer, et rouge quand il y a un vrai axe de travail. Mais des fois, il y a des joueurs, ben, je ne vais pas dire que c'est vert partout, mais à beaucoup d'endroits, et on ne va pas essayer de chercher la petite bête et d'installer du doute alors qu'il y a des choses qui sont déjà en place, quoi. Enfin, voilà, donc Serena, non, faudrait voir ce que donne l'analyse et puis ce que disent les données, mais je pense que des fois, il n'y a pas besoin non plus d'embêter les joueurs avec ça, quoi.
Bon, bah, continue de travailler ton français, Serena, mais ne change rien au service.
Non, si elle veut venir, il n'y a pas de souci, on l'accueillera, mais...
Et t'es plus Roger, Rafa ou Djoko sur le service?
Moi, je suis 100% Roger. Pour tout ou pas que pour le service.
Ouais, mais là, je te demande pas de le demander en mariage. Hein.
Non, je suis mariée. Attends.
Ouais, mais bon, on sait que Roger, il a quand même un statut particulier. Mais ça. En termes de service...
Service, malgré tout, je vais quand même sur Roger parce que je pense que c'est le service le plus fluide, tu vois, des trois. On sait que Rafa a énormément travaillé, que chez lui, ce n'est pas un coup qui est naturel parce que il joue en tant que gaucher alors qu'il est droitier dans la vie. Donc, c'est sûr que servir de la mauvaise main, c'est quand même pas simple. Et que chez Djoko, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de modifications techniques sur le service de Djoko au fur et à mesure de sa carrière. Mais du coup, c'est des super exemples aussi, Djoko et Nadal. Ils prouvent à tout le monde que tu peux être au plus haut niveau pendant des années et continuer de chercher à améliorer, à optimiser ta gestuelle. Et ça, je trouve ça super. Et du coup, ça donne l'exemple aux autres, je pense, par rapport à certains joueurs qui sont parfois réticents et qui ne veulent pas changer quoi que ce soit. Ben, les meilleurs prouvent le contraire. Donc, sur la qualité, on va dire, intrinsèque, naturelle du service, oui, celui de Federer semble... moi, m'intéresse plus. Je rêverais de pouvoir l'analyser pour essayer de comprendre cette notion de fluidité et de vitesse qui s'en dégage sans l'impression... Enfin, on n'a pas l'impression qu'il force quand il sert. Et ça, c'est un truc sur la question du transfert d'énergie depuis le bas du corps jusqu'à la raquette. Voir comment ça circule un peu sur le service de Roger, ce serait génial. Et puis, je suis attachée aussi à l'idée que ça devrait faire partie de notre patrimoine tennistique, de pouvoir enregistrer ces gestes-là, tu vois, pour que ça reste dans l'histoire du tennis. Et qu'au même titre que ça aurait été super de pouvoir enregistrer le service d'un Rod Laver, d'un Pete Sampras,
Mais
Bah,
tu
d'un
veux dire pourquoi?
Federer.
Ils sont pas vraiment. Il n'est pas enregistré le service de sang presse? Il n'est pas numérisé quelque part
Alors, ben, je ne sais pas. En tout cas, sur la capture de mouvement 3D, je ne sais pas si ça a été fait. On a des images, évidemment, des matchs sur de la vidéo 2D. Mais aller voir en 3D ce qui se passe et puis vraiment aller chercher les paramètres que nous, on regarde, ça, moi, je trouverais super parce qu'on aurait aussi une évolution un peu historique de la technique de service, tu vois, si on avait ce service de Lacoste, puis le service de Bill Tilden, puis le service de Lever et. Tu vois, il y a aussi ce côté empreinte historique que moi je trouverais super de pouvoir garder une trace en fait.
Tu m'étonnes.
Faire
Bon, bah
part, ouais.
on se lance le défi. Pete, si tu
Ouais,
nous écoutes, on
ça
rendez-vous à Rennes début 2022. On a un créneau avec 40. Attends. Et tu disais, j'adorerais avoir Serena ou les trois monstres et les analyser. Mais est-ce que toi, tu pourrais pas, de ton côté, analyser déjà tout ce qui est analysable avec ton œil d'experte, en faire un rapport, leur envoyer et leur dire, voilà déjà ce que j'ai vu. Maintenant, je vous invite, ça me fait plaisir. Tu vois, un peu pour leur
Ouais.
donner l'eau à la bouche d'en avoir plus, quoi.
C'est
T'as
une
pensé
bonne
à faire
idée.
ça ou pas?
Écoute, non, non, j'avais pas pensé. On a essayé d'approcher Andy Murray là sur l'Open de Rennes parce qu'il est venu sur le Challenger. Bah, ça a été fait en fait un peu dans la précipitation parce que on a appris comme le grand public qu'il arrivait, je sais plus, 2 jours ou 3 jours avant. Donc ça a été un peu compliqué pour nous de s'organiser. On a essayé de prendre contact avec les entraîneurs, mais on n'a pas eu de réponse. Après, pour eux, enfin ces joueurs-là, faut trouver le bon timing pour le faire dans leur saison. Il faut quand même qu'ils aient un intérêt à venir. Il faut effectivement leur donner envie. Il faut que le coach et l'entourage aussi adhèrent. Enfin, tu vois, c'est pas que convaincre le joueur, mais donc c'est compliqué. Mais effectivement, ça peut être une porte d'entrée de dire, bah voilà ce qu'on fait. Voilà ce que nous on a pu observer déjà à partir de vidéos simples qu'on récupère sur YouTube. Il y a déjà des super vidéos de qualité. Et voilà un premier compte rendu et ce qu'on pourrait travailler ensemble. Après, ça pourrait être une option, mais ouais,
Parce qu'en fait, il y
à
a des.
creuser.
Je pense à ça parce que je ne sais pas si je le laisserai au montage, mais il y a un métier qui se crée depuis quelques années qui s'appelle le copywriting. C'est l'art d'écrire des textes, tu vois, que ce soit
Ouais.
des pubs ou des mails, des séquences d'emails pour vendre un
OK.
service ou un produit, peu
OK.
importe.
Ouais.
Et en fait, tu as de plus en plus de gens qui se forment au copywriting. Et
D'accord.
pour trouver des clients, ils vont
Ouais.
chercher des grandes marques qui vendent
OK.
déjà à travers bah, tu vois, des publicités, des emails. Et ils les refont, ils reprennent,
OK.
ils la réécrivent à leur sauce avec, en changeant vraiment des trucs, mais minimes, quoi, tu vois.
D'accord.
C'est vraiment le détail, comme toi, tu peux trouver des pourcentages que
Ouais.
tu vas analyser chez un pro. Et spontanément, ils vont démarcher la personne en disant, voilà, j'ai refait votre
Ok.
page de vente, j'ai refait votre message publicitaire, juste ces cadeaux, c'est pour moi. Et
Ouais, et si ça vous intéresse. Ouais,
si toutefois vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me recontacter.
c'est pas mal, c'est pas mal.
Énormément de gens trouvent des missions grâce à ça aujourd'hui. Et
D'accord.
bon, voilà, ça m'a fait écho sur.
Ok, bah c'est. J'ai regardé ce truc-là, mais je vais t'embaucher dans mon équipe marketing. J'ai
Eh ben
besoin
voilà,
de.
merci à
Moi,
le marketing, Laurent.
j'ai pas cette compétence-là. Ça fait pas partie de mon background, mais c'est pour ça qu'à un moment, l'équipe, il faut l'étoffer et qu'il faut s'entourer aussi de gens qui ont des compétences. Là, voilà, j'ai un ingé, mais peut-être qu'on sera amené à démarcher de plus en plus ou à se faire connaître et donc
Yes.
à passer sur ce type de démarche. Je sais pas.
Génial. Alors, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews.
Ouais.
Est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie, Caro?
Un livre qui a marqué ma vie. Alors, dans le domaine du tennis, il y en a un. C'est la biographie d'André Agassi.
Ouais, open.
Ouais.
Et
Ouais.
en dehors du tennis?
Oula, tu me prends au dépourvu.
Alors juste le
Ouais.
message de Open qui t'a particulièrement marqué. Peut-être que ça te fera revenir un livre en dehors après.
Le message de Open qui m'a particulièrement marqué, je pense que ce que j'en garde de ce bouquin-là, c'est la transformation d'André Agassi. C'est ce joueur qui n'aimait pas le tennis, qui détestait ça et qui finalement chemine et qui passe par plein d'états et des états vraiment difficiles. On le sent dans le livre que voilà, il est dans le dur et que c'est compliqué pour lui dans sa relation à son père. Au sport et qui et qui se transforme en fait, et qui se révèle et qui devient amoureux de son sport, qu'en devient un ambassadeur. Ouais, c'est ce que je retiendrai, et le cheminement personnel qui a à travers ça, ouais.
Okay. Du coup, un livre en dehors du tennis ou pas? Où toute ta vie est intégralement dédiée au tennis, à
Ouais,
tes
non, là,
enfants et à ton mari?
Ah, c'est là, tu résumes bien. En ce moment, c'est un peu ça. Un bouquin. Non, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui me vient. Ouais.
Peut-être ça viendra plus tard. Un film, un seul qui vraiment t'inspire.
C'est pareil, hein. Ça, c'est le genre de truc.
Tu peux me dire la soupe aux choux 92 avec Louis de Funès. Je crois que si tu n'as pas le film, je ne sais pas si tu vas trouver la question d'après qui est une citation. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien?
C'est quoi ça?
Joker sur Joker, Caro.
Ouais, attends, une citation. Une citation, non, j'aime. Ouais, mais tu vas dire que c'est encore du tennis, mais c'est enfin la citation qui est tatouée sur le bras de Stan Wawrinka de Samuel Beckett. Ouais, j'aime bien. J'aime
Tu peux nous la dire ou elle est trop compliquée à s'en
bien.
souvenir?
C'est essayer, échouer encore, réessayer, échouer mieux.
Et
Enfin,
se
ça,
relever.
non, je l'ai pas. Mais, et sinon, si. Alors, si, sur une citation, mais tu vas dire que c'est encore tennis, mais c'est pas grave. J'ai eu l'occasion d'aller à Wimbledon et d'être un peu dans les coulisses et de voir la fameuse
Ah, yes.
citation qui donne sur le cours central avec le fameux poème de Rudyard Kipling, là, que je
Ouais.
trouve magnifique. Voilà. Donc, c'est.
Et c'est quoi cette citation déjà?
Si tu peux accepter.
Tu veux que je la cherche?
Ouais, je veux bien parce que là, tu me prends. Fallait m'envoyer les questions avant. Là.
Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité,
Ouais,
Caro.
bah tu vois, alors là, sur ces trucs-là, moi, je suis nulle. Je suis nulle. Il faut que je réfléchisse. J'ai besoin d'analyser le truc sous toutes les coutures.
Wimbledon, citation. Citation Jean
De
Dion
Kipling.
Wimbledon. Oh là là, mais attends. Tac.
Si tu peux accepter l'échec ou la victoire et traiter ces deux imposteurs de la même façon, un truc comme ça.
Bien
J'ai
vu.
plus.
Ouais,
En plus, elle est en anglais, donc.
ah, voilà.
Mais ouais.
Et je repasse sous l'inévitable citation de Rudyard Kipling, selon laquelle victoire et défaite sont deux imposteurs qu'il faut traiter de la même manière.
Voilà. Ça, je trouve que c'est assez parlant aussi.
Bien vu. Alors attends, je me remets à mes questions que je ne connais plus par cœur, puisque je fais beaucoup moins d'interviews. Toujours pas de film, Caro?
Non, demande-moi une chanson.
Ah,
Ça, je peux te
est-ce qu'il y a une
sortir.
chanson que tu adores
Oui,
fredonner
ça,
avec Daniel
je
Medvedev dans ta voiture?
peux. Non, ma chanson préférée, c'est Wonderwall de Oasis. Ça, tu
Ah.
vois, ça, c'est. Voilà, ça sort direct. Le
Et
film, moins là. Je...
est-ce que tu as déjà vu Oasis en concert du coup?
Oui, je les ai vus juste avant que le groupe parte en vrille complètement. Ils étaient venus en concert à Nantes en
D'accord.
2009. Donc, je les ai vus, j'ai adoré.
Est-ce que c'est le
Mais...
concert le plus ouf de ta vie?
Le plus ouf de ma vie, non. Le concert le plus ouf de ma vie, c'est celui de Stromae à Rennes. Ouais, j'avais trouvé le show qui était incroyable.
Ah, trop
C'était
bien.
dingue. Mais Oasis, oui, avoir pu les voir en vrai, en plus, c'était un groupe que mon père me faisait écouter quand j'étais un peu plus jeune. Et que j'ai, voilà, quand la première fois que j'ai entendu Wonderwall, j'ai trouvé cette chanson incroyable.
Génial.
Et j'ai eu la chance de les voir, ouais, en concert en vrai en 2009. Et les frères Gallagher, tous les deux sur scène, c'était chouette.
Est-ce que tu l'as passé à ton mariage, du coup?
Non, alors bon, il faut que je parle de mon mariage. Non, j'ai pas passé de chanson de mon, ah, j'ai pas passé cette chanson-là à mon mariage, mais j'ai fait un mariage surprise, si tu veux savoir.
Ah, très bien. Eh bien, écoute.
Les gens n'étaient pas au courant qu'on allait se marier. Le jour où on s'est mariés, ils sont arrivés. Ils
Ça, c'est un problème.
étaient pas du tout endimanchés. C'était très bien. On a fait ça.
Ah, c'est génial, j'avais jamais entendu cette version de.
Bah
Ok.
ouais, on voulait faire ça juste avec des proches et qui sachent pas. Et on les a fait venir pour nos 30 ans. Tu vois, on a prétexté, c'était nos 30 ans. Et puis on les a fait venir au centre-ville de Rennes en prétextant qu'on allait faire un jeu de piste dans Rennes. Et puis on leur a dit, bah, retournez-vous, coucou, on est à la mairie, on y va. Et on s'est
Mais.
dessapé. Et moi, j'étais en robe en dessous et Thomas était en tenue de mariée. Voilà.
Ah, mais c'est trop bien.
Ouais,
Bah, félicitations en tout cas.
bon.
Est-ce que tu peux nous confier, c'est un petit peu plus sérieux, la plus grosse période de doute en lien au tennis ou à la bioméca dans ta carrière à laquelle tu as fait face?
Plus grosse période de doute, oh, en tennis, il y en a eu. Enfin, ça fait partie
Bien sûr.
du, ça fait partie du quotidien, j'ai envie de dire, du joueur de tennis. Si j'ai eu une grosse période, autour de 20 ans là, où j'étais à la fois à la fac et j'étais à la fois, je jouais, et j'ai eu une période de 6 mois où j'ai enchaîné défaite sur défaite.
Oh.
Mais vraiment, j'étais à moins 15, je perdais à 2-6 et j'étais au fond du trou. Ouais, une période un peu compliquée là. Puis c'est juste après cette période-là que j'ai eu mal à l'épaule. Tu vois, comme quoi tout est un peu lié hein,
Bien
quand
sûr.
même. Et derrière, j'ai coupé pendant 3 mois parce qu'il fallait que mon épaule se remette. Et puis ensuite, la confiance est revenue petit à petit. Mais ouais, j'ai eu une période vraiment de moins bien à ce moment-là. Et sur la bioméca, bah, la bioméca, il y a des doutes, mais après des difficultés majeures, non, parce que ça reste du travail, ça reste du plaisir, et il ne faut pas se prendre la tête non plus avec ça. Il n'y a pas d'enjeu non plus. Voilà, donc des périodes de doute sur la bioméca, non, il n'y a pas eu des périodes difficiles avec ça pour l'instant.
C'est beau, quelqu'un qui arrive à dire ça reste du travail, virgule, ça reste du plaisir. Ça fait du bien à entendre, c'est
Bah
rare.
ouais, bah ouais, j'ai la chance d'avoir un travail qui me passionne. Alors des fois j'en ai marre aussi, hein. Faut pas... Des fois c'est bon, le tennis, ouais, j'en
Ça va
mange un
bien.
peu à toutes les sauces avec mes étudiants, avec le labo. Donc des fois je coupe, voilà, des fois
Tu vas faire
je
un
fais
foot, quoi.
mister. Ouais, je vais faire un footing ou je vais faire autre chose. Et des fois, c'est vrai que, bon, voilà. Mais quand même, malgré tout, j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne et qui me plaît.
Et du haut de ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que la Caro de l'époque avait 20 ans qui était un peu dans le trou là, qui enchaînait 6 mois de défaites, qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille aujourd'hui si tu pouvais lui parler?
Bon, je lui dirais que c'est pas grave. C'est pas
Ok.
grave que bah oui, ça fait partie du quotidien du joueur, que ça fait partie de la vie, que dans la vie il y a aussi des moments où on n'est pas bien et que ça rebondit toujours. Voilà. C'est comme la balle. Elle repart.
Ça me fait
Et
penser
voilà.
à Ronan Lafay qu'on a eu là sur le podcast, qui est prépa mental et qui dit quand le joueur arrive en tournoi, il doit se dire que c'est OK de perdre. Il doit se préparer à perdre en fait. Il doit se préparer évidemment à gagner et être prêt à gagner, mais être prêt à perdre et du coup à gagner en lâcher prise pour qu'il y ait moins d'enjeux. Voilà, et puis comme
Mais
tu
c'est
dis,
le plus
blessure en
dur.
fait, c'est
Mais
normal.
c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que quand tu es compétiteur, enfin, moi je sais que j'ai encore beaucoup de mal, même actuellement, à lâcher prise. Alors j'ai lâché prise sur l'aspect tennis compétition pour moi, mais dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à le faire. Et heureusement, j'ai progressé là-dessus. J'ai du mal aussi parfois à dire, allez, le soir. Mais tu vois, il y a des trucs, je me dis, le soir, c'est stop, le travail, je lâche prise. L'ordi, il est éteint, le téléphone, il est éteint, et je passe à autre chose, c'est la vie de famille, c'est autre chose. Et voilà, mais pendant longtemps, je bossais le soir, le week-end.
Ah
Bon, bah
ouais.
voilà.
Quand il y
Ah,
avait toujours un
bah.
compte rendu à rendre, il y avait toujours un
Un
truc.
compte rendu, ouais, où j'étais en thèse, donc il y avait du boulot. Voilà, tu as toujours des trucs à faire. Tu peux toujours faire des choses, mais il y a un moment où, bah, si tu n'arrives pas toi-même à lâcher, il faut se l'imposer. Et puis petit à petit, tu vois aussi que ça te fait du bien des fois de faire autre chose. Et donc voilà, mais c'est dur, accepter de lâcher prise, accepter d'envisager la défaite quand... T'en veux pas, quand voilà, mais ça fait partie d'un cheminement à la fois sportif, mais aussi personnel de la vie de tous les jours. Parce que souvent, on est sur le terrain comme on peut être dans la vie, tu vois, tu retrouves des choses du terrain de la vie. Donc,
Tu m'as dit tout à l'heure qu'une des prochaines étapes sur la bioméca, c'était donc de le mettre en situation réelle, sous pression, de voir vraiment comment le joueur réagit. Est-ce que c'est ton rêve, toi, aujourd'hui, de cheminer par là, ou est-ce que tu as un autre rêve à accomplir? Ton Graal à toi, ce serait quoi? Dans la biomécanique, hein.
Il n'y a pas de oui, il y a des perspectives, il y a des objectifs de se dire, ben voilà, la prochaine étape d'un point de vue scientifique et sur l'accompagnement des sportifs, c'est aller sur les systèmes où on va pouvoir voir les joueurs en compétition. Là, dans les années qui viennent, c'est accompagner du mieux possible les joueurs de la FFT sur la préparation des JO. Après, le Graal, mais c'est pas tant la scientifique qui va parler, c'est plus la fan. Si un jour on a Roger, bah ce serait le top.
Ah
Voilà,
bah
si je peux
voilà.
dire ça.
Ah bah trop bien. Bon, on va venir avec Roger et Pete, hein, sois prête. Et un rêve tout court, en dehors de la bioméca, puisqu'il n'y a pas que la bioméca dans
Non,
la vie, un truc que
vraiment,
tu
non.
aimerais réaliser dans ta vie, peu importe
Ah, il y
le...
a un truc que j'aimerais faire. Je vais attendre que mes enfants grandissent un peu et dont on a parlé un petit peu avec mon mari. C'est peut-être un moment, voilà, prendre 6 mois et puis naviguer un peu autour du monde. Ouais, j'aimerais
En
bien
bateau, du coup?
aller. Non, non, pas, non, quand je dis naviguer, non, non, j'ai
Voyager.
pas forcément le pied marin. Je suis en Bretagne,
D'accord.
c'est pas trop ça. Non, non, voyager, ouais, aller voir des choses là. Un peu été sevrée pendant 2 ans de voyage
Ouais.
et aller voir ce qui se passe un peu à droite, à gauche. Ouais, je pense quand les enfants seront un peu plus grands. C'est un truc qui me plairait. Et si possible, bah, tu vois, je reviens quand même au tennis, faire les 4 grands chelems, aller voir les 4 grands chelems une année.
Yes.
Aller voir à l'Open d'Australie, un peu à New York aussi, ce qui se passe.
Ça bon ça. Il y a une question qui était passée à la trappe, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné sur un terrain de tennis?
Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné sur un terrain de tennis? Ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est accepte de mal jouer aujourd'hui. Tu vois, et ça, mon entraîneur, il me le disait souvent, et puis c'est un truc que je me suis approprié au fur et à mesure, c'est de dire, bah ouais, tu vas peut-être faire, je sais pas, 80 matchs cette saison, et en fait, sur les 80, il y en a peut-être 5 où tu vas jouer vraiment comme tu veux. Donc ça veut dire que tout le reste, ça va pas aller comme tu veux. Et l'enjeu, essaye de trouver du plaisir, ou en tout cas, le but, c'est de faire avec les armes que tu as aujourd'hui, l'adversaire que tu as aujourd'hui, la météo qu'il y a aujourd'hui, pour te sortir du match d'aujourd'hui, quoi. Et
Bien
ça, ouais, ça, je trouve que c'est assez marquant. C'est un truc que moi, j'ai essayé de transmettre aux joueurs. Je me suis occupée de quelques joueurs, voilà, de leur faire comprendre très tôt que, bah oui, aujourd'hui, ça sort pas comme tu veux de la raquette. Ok, mais c'est pas grave, on s'en fout, en fait. Fais avec ce que tu as aujourd'hui. Le but, c'est pas. Oui, tu voudrais faire que des points gagnants. Tout le monde voudrait faire que ça, mais c'est pas possible. Donc, accepte. Voilà. Et bataille avec ce que tu as aujourd'hui.
vu, trop bien, j'adore.
Voilà.
Tu m'as dit que tu écoutais de temps en temps le podcast, alors je ne sais pas si c'était pour me faire plaisir ou si c'est la
Non, non,
réalité.
c'est vrai, c'est vrai,
Ah,
c'est vrai,
cool.
c'est vrai, c'est vrai.
Et qui aimerais-tu entendre qui n'est pas encore passé au micro? À qui tu pourrais donner le relais et peut-être même nous aider à avoir?
Alors, moi, j'aimerais donner le relais, mais je pense que ça va être compliqué. Mais quelqu'un que j'aimerais bien entendre, c'est Amélie Mauresmo.
Ah oui. Alors, figure-toi que j'ai pris une recale par Amélie. Ah mais non, mais je te l'avais dit en plus. Je te l'avais
Oui,
dit
tu
au
m'as
cul. Mais je l'ai prévenu, Amélie. Je lui ai dit, sache que je préfère te prévenir maintenant.
Je
Si je te
reviendrai pas.
recroise, je te reproposerai. Voilà. Ok.
Non, ouais. Amélie, pourquoi Amélie? Parce que moi, elle m'a marqué, évidemment, sa carrière. Voilà, j'ai beaucoup suivi. Et puis, les interviews, c'est vrai qu'elle se fait plutôt rare. On l'entend peu dans les médias. Mais quand je l'entends, je trouve que c'est toujours très pertinent. Et puis, c'est une femme. Donc, voilà, je trouve que ça porte aussi. Et que c'est important qu'on ait des femmes qui soient mises en avant et dans notre sport. Donc, ouais, comme ça, spontanément, je te dirais Amélie Mauresmo.
Ok,
Après.
trop bien. Et dans les neurosciences, tu connais quelqu'un qui traite un peu le tennis ou parce qu'on me le demande de plus en plus là dernièrement?
Dans les neurosciences, sous quel aspect, toi? Une idée précise ou non?
Bah, gestion un peu du mental, ce qui se passe dans le cerveau, dans les moments chauds. Je t'avouerai que j'ai pas encore trop planché là-dessus, mais.
Ouais, non, il n'y a pas. À un moment, Gilles Simon, il travaillait pas, il n'avait pas un entraîneur un peu de ce type-là qui s'est occupé de lui.
Bah, il y avait Laffey en prépa mentale, il y avait
Ouais, mais je.
De Vite, mais c'était l'entraîneur terrain. Il y avait peut-être un autre, peut-être Genevoix, non, Cyril Genevoix, c'est ça dit quelque chose?
Non, Cyril Genevoix, il est en bioméca comme moi.
Ah, oui.
Le coach, si à un moment, Gilles Simon, il a fait un passage avec. Alors, est-ce qu'il travaille encore avec lui? Je ne sais pas, mais un gars qui était un peu calé en neurosciences, il me semble.
Ah oui, oui, si, si, ça me revient. J'ai plus son nom, mais.
Après, ouais, je ne connais pas du tout, tu vois, c'est juste yes. Pour avoir lu ça dans la presse.
Ouais, ouais.
Non,
j'ai... Merci en tout cas à toi d'être dispo et puis à très
pas
vite du coup pour la masterclass.
Parfait.
Bien. À bientôt, Caro.
On fait comme ça. Merci, à plus.
Salut. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode avec Caroline. Viens me dire ce que tu en as pensé en commentaire. C'est un régal de te lire et en plus ça aide à diffuser notre travail parce que ça améliore l'algorithme de l'épisode. Et oui, nous vivons dans un monde d'algorithmes. C'est pas beau ça? Et pour nous aider encore plus, continue sur ta lancée. Et mets-nous un like si t'es sur YouTube. Dès maintenant, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast. Tu arrêtes tout, tu scrolles vers le bas et tu mets 5 étoiles. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut avancer. Pour rappel, Apple Podcast, c'est la mecque qui nous permet de rayonner dans cette jungle des podcasts. Et d'ailleurs, je viens de lire qu'à l'époque, un podcast était un fichier audio qu'on pouvait mettre sur un iPod. Figure-toi que le nom vient de là. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Bon, maintenant que tu as bombardé de likes et de commentaires sur toutes les plateformes, c'est ta mission d'ambassadeur qu'il faut prendre à bras le corps. Tu vas me faire le plaisir d'envoyer cet épisode Fissa à un pote à toi qui rêve, comme mon cousin Mathurin, la bise, Matt, de devenir biomécanicien et qui espère secrètement chaque jour recevoir un mail réponse de Caroline qui accepterait éventuellement sa demande de stage. Tu as reconnu le bouche à oreille, notre arme fatale pour démocratiser les podcasts en France, dans le sport et qui plus est dans le tennis. Alors balance, transfère, abonne, relance tes potes et surtout, ne lâche rien. Merci. Merci également à Petro et Turnil pour vos derniers commentaires sur Apple Podcasts, ça fait chaud au cœur. D'ailleurs, Petro nous écrit, un peu avare d'anecdotes, l'ancien JCP, donc Jean-Claude Perrin, mais quelle sagesse! Comme quoi la performance peut être obtenue sans violence et chaos, n'en déplaise à Jean-Claude, tes intros sont parfaites et il a fini par faire plus long. Merci man. Sache que tu peux nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle tu peux faire des dons à hauteur de 3€ par mois ou plus si le cœur t'en dit. C'est toujours hyper agréable de sentir son travail reconnu et soutenu en mettant chacun un peu sa pierre à l'édifice. Je me démène chaque semaine. Maintenant, je suis full time sur le podcast pour te régaler avec un nouvel épisode, des hors-séries et les masterclass depuis la rentrée. Donc voilà, c'est toujours ultra cool de sentir qu'on a un moteur qui tourne et qui nous pousse, qui nous stimule. Vous avez le lien dans la description de l'épisode, en bas de la description. Libre à vous de participer ou pas. Le ou pas n'étant pas une option, évidemment. T'as accès à la 8e masterclass cette semaine, donc avec Caroline, qui te met à disposition ses 10 ans d'expertise et plus de 150 jours pro analysés. On a planché ensemble sur comment obtenir le service parfait avec Caro, du coup, qui a vu passer Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime, entre autres, pour optimiser leur technique, gagner en fluidité et en puissance. Si tu veux progresser au service, c'est le moment ou jamais. Caroline te livre un condensé d'expertise dédié à ce coup du tennis avec un nouveau cours d'1h15 dans lequel tu obtiendras la checklist non négociable des points clés à travailler techniquement, les 5 points fondamentaux que tu dois connaître sur toi-même pour optimiser ton geste, plusieurs conseils pratiques pour progresser sans que ça soit le bagne à l'entraînement, quelle position des pieds choisir en fonction de ton gabarit, ta coordination et ton équilibre, et enfin comment optimiser ton lancer de balle, le tout pour gagner en précision, en fluidité et en vitesse, tout en prévenant les blessures. Et oui, vous l'avez compris, c'est une nouvelle masterclass ultra complète. Et c'est ça la force de la biomécanique, qui plus est avec une experte aussi reconnue que Caroline. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On est donc à la 8e et les 7 autres sont listés juste en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Si tu veux remercier notre invité, c'est possible de le faire sur LinkedIn à Caroline Martin. Et si t'as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn aussi à Max Zamora, Zamora. Ou sur Insta à Max Emia le tout attaché et ETMIA MIA. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là, vous êtes vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.